Bonsoir à tous, bienvenue à la BPI et au Centre Pompidou pour cette rencontre sur l'agriculture urbaine. Potager urbain, ferme urbaine, culture sur les toits, culture verticale, aquaponie, hydroponie. Les formes de l'agriculture urbaine et les acteurs aujourd'hui sont variées, diverses, multiples. Cette rencontre, cultivée en ville à la découverte de l'agriculture urbaine, va vous permettre ce soir de mieux comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de l'agriculture aujourd'hui, en ville. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Lagneau de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et Simon Ronceret, agriculteur urbain et cofondateur de la FOP. Ils vont eux-mêmes se présenter un peu plus en détail. Sachez que cette conférence est diffusée en direct sur le site de web de la BPI et sera également disponible d'ici environ un mois sur la Web TV. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous aurons l'occasion de poser des questions à la fin de la conférence. Merci.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste avant de commencer à discuter un peu de l'agriculture urbaine, avec un point de vue croisé entre Antoine et moi-même, des rapides présentations de nos parcours. Pour ma part, je suis fils d'agriculteur, donc en milieu rural, fils de céréalier. J'ai décidé après de faire une école d'ingénieur agronome où j'ai été formé du coup à l'agronomie pour les pays du Sud. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire plutôt chez nous. Et donc, on a décidé avec deux autres amis de faire un tour d'Europe à vélo sur l'agriculture urbaine dont je vous parlerai tout à l'heure, ce qui m'a amené par la suite à travailler pendant 3 ans en tant que fermier urbain, agriculteur urbain pour l'association Veniverdi à Porte de Bagnolet. Et en tant qu'agriculteur urbain, j'ai cofondé l'AFOP, l'association française d'agriculture urbaine professionnelle, dont on reparlera aussi. Et je coordonne la formation en agriculture urbaine à l'école du Breuil depuis un an avec un autre camarade. Et aujourd'hui, je tente de m'extirper du réseau urbain pour lancer mon installation en maraîchage bio sur les terres familiales avec de l'agroforesterie et notamment de la viticulture.
Bonjour, donc Antoine Lagneau, je suis chargé de projet agriculture urbaine à l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité, qui est une direction de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Moi, j'ai un parcours beaucoup, enfin, je suis pas fils d'agriculteur déjà. Je suis né à Paris et puis j'ai pas fait autre chose que du métro et autres. Mais par contre, je suis tombé dans l'agriculture urbaine par un mouvement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le mouvement des villes en transition. C'est un mouvement qui est né en Angleterre du côté de Tottenham. Bon, je ne vais pas vous faire le topo du mouvement, c'est pas pour ça que je suis là. Mais en tous les cas, voilà, moi je suis venu à travers ce mouvement-là dans l'agriculture urbaine, puis j'ai intégré l'Agence régionale de la biodiversité en 2010 et j'y ai créé ce que vous voyez là à l'écran, l'Observatoire de l'agriculture urbaine et de la biodiversité. Donc c'est une mission qui a été montée entièrement en 2014 quand le mouvement de l'agriculture urbaine a pris son envol. Et donc l'Agence régionale de la biodiversité, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la biodiversité, voulait comprendre les liens qu'il pouvait y avoir entre agriculture urbaine et biodiversité. Donc c'est comme ça que je suis moi rentré complètement dans ce mouvement. Je vais pas vous détailler plus mon parcours parce que je suis déjà âgé par rapport à Simon, et donc j'ai fait plein d'autres choses et ça vous intéressera absolument pas, sauf à la fin si vous voulez discuter de ma vie. Mais bon, je vais tout de suite et directement passer à ce qui nous intéresse. Je crois que c'est moi qui démarre. Pour vous présenter un petit peu, je vais vous donner une petite définition peut-être de l'agriculture urbaine, parce que enfin vous savez peut-être tous ce que c'est, mais il y a tellement de définitions qu'à la limite c'est bien de poser juste les choses très très rapidement avant de lancer cette discussion. Donc moi, je vous ai résumé un petit peu à travers trois grandes phrases, hein, ce que c'est, tel que nous on l'aperçoit en tous les cas à l'Agence régionale de la biodiversité, qui pourrait être complétée par Simon. C'est une agriculture urbaine qui fait vivre la ville à travers ses multiples fonctions, hein, notamment donc évidemment des fonctions alimentaires, mais aussi des fonctions environnementales, des fonctions sociales, des fonctions culturelles, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est une agriculture multifonctionnelle. Et puis c'est aussi une agriculture qui vit de la ville à travers le fait que précisément elle emploie, par exemple, de la main d'œuvre. Enfin, des urbains en tous les cas. Elle vit de la ville aussi à travers le fait qu'elle exploite à peu près toutes les structures de la ville. Quand je parle de structures et de surface, donc que ça soit les toits, que ça soit évidemment la pleine terre, mais dans une ville comme Paris, la pleine terre se réduit, comme vous le savez aussi bien que moi, comme une peau de chagrin. C'est d'ailleurs un débat qu'on pourra d'ailleurs avoir entre nous tout à l'heure. Elle exploite aussi les parkings, les sous-sols, enfin bref, elle exploite toutes les surfaces. Elle vit aussi de la ville à travers le fait qu'elle utilise les réseaux de la ville, les réseaux électriques, les réseaux d'eau, etc., etc. Donc voilà, c'est une agriculture qui fait vivre la ville et qui vit de la ville. Et surtout, donc, l'agriculture urbaine, c'est une agriculture qui entretient, comme vous le voyez là, des liens fonctionnels avec la ville. Voilà à gros traits, une définition, mais on pourra aussi, si vous le souhaitez, dans la discussion qu'on aura après cette présentation, y revenir. Alors, moi, je voulais vous faire aussi un petit historique de l'agriculture urbaine, parce que on a souvent l'impression que c'est une histoire récente. Mais non, l'agriculture urbaine, c'est ni une histoire récente, c'est encore moins une histoire de mode, parce que c'est difficile maintenant que le mouvement est lancé de parler de mode. Hein. Ça fait une quinzaine d'années que l'agriculture urbaine est revenue dans nos villes européennes et occidentales, et donc on a passé, si on pouvait encore l'imaginer, cet effet de mode. Donc c'est ni une histoire récente, ni une histoire de mode, mais c'est plutôt, moi je dirais, une histoire de l'humanité. Et pourquoi une histoire de l'humanité ? Parce que l'agriculture urbaine est née avec la ville, est née quand les premières villes ont émergé. Donc on va remonter un petit peu loin, c'est pour ça que je vous ai mis cette carte, hein, c'est la Mésopotamie, et notamment dans une ville qui s'appelle Uruk. Vous voyez là, Uruk, c'est la civilisation sumérienne, et à cette époque-là, il y avait déjà, effectivement, il y a des fouilles archéologiques qui attestent du fait que l'agriculture urbaine était déjà pratiquée, donc dans la ville, hein, donc en intramuros, et grosso modo, toutes ces grandes villes là que vous voyez à l'écran, toutes ces grandes villes qui sont liées à la civilisation sumérienne, pratiquaient l'agriculture urbaine. Donc on remonte quand même à assez loin, hein, on est à moins 3000 ans avant notre ère, c'est vous dire que c'est pas du tout une histoire récente. Alors évidemment, c'est pas la même agriculture urbaine que celle qu'on connaît aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, c'était aussi un petit peu pour poser les choses. Alors je vais faire un grand bond en avant, parce que je vais pas vous faire toute l'histoire de l'agriculture urbaine, sinon ça va durer un peu trop longtemps. Mais à la fin du 19e siècle, là je me base un peu sur l'Île-de-France, l'agriculture urbaine, alors on parle pas nécessairement encore d'agriculture urbaine, enfin en tous les cas c'est pas l'agriculture urbaine telle qu'on l'entend aujourd'hui, hein. Elle englobe aussi la petite couronne. On se trouve donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui la Seine-Saint-Denis. Vous êtes à Bobigny, on est sur la Plaine des Vertus. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom. Donc la Plaine des Vertus, ça couvre Bobigny, ça couvre également Aubervilliers, des villes où on a aujourd'hui du mal à imaginer qu'il y ait pu y avoir ce type de pratiques agricoles. Et donc à cette époque-là, l'agriculture urbaine et périurbaine couvre vraiment une grande surface la petite couronne francilienne et alimente énormément, en grande partie Paris. C'est même, comme vous le voyez là sur ce petit graphique, hein, en suivant un petit peu l'évolution à travers les années, c'est même la Plaine des Vertus considérée comme la plus grande plaine maraîchère d'Europe au milieu du 19e siècle, à peu près. Donc on est vraiment sur quelque chose d'ultra productif en matière de maraîchage, grâce à diverses techniques. On l'a vu sur la photo précédente, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai passé peut-être un peu vite, mais en fin de compte, ils pratiquent notamment de l'agriculture sous cloche, qui permet, mais peut-être que Simon pourra là-dessus être, c'est plus sa spécialité que la mienne, mais qui permet vraiment d'avoir une agriculture très productive, et du coup ça a pour conséquence vraiment de faire de cette plaine, comme je vous le disais, l'une des plus importantes d'Europe, et elle alimente quasiment à 100% Paris en fruits et en légumes surtout. Donc cette plaine maraîchère va progressivement disparaître en fait sous l'effet de l'industrialisation. Donc à la fin du 19e siècle, l'arrivée du chemin de fer également va provoquer son rétrécissement. Et puis donc encore une fois, cette industrialisation, la nécessité de mettre les usines quelque part et puis ensuite de mettre des habitations, etc., va finir par faire que cette plaine va se réduire comme peau de chagrin. À l'intérieur de Paris, vous aviez aussi des maraîchers, notamment sur tout le pourtour du nord-est parisien, mais aussi même assez loin dans Paris. Et comme vous le voyez, alors je suis désolé, l'image n'est pas de très bonne qualité, en fait c'est un vieux géo, hein, qui remonte il y a 20 ans, que j'ai scanné, donc c'est pas super, mais en tous les cas c'était quand même pour vous montrer cette photo, hein. Donc vous le voyez, on est sur le pont de Grenelle. On a du mal à imaginer qu'il ait pu y avoir ce type d'image, en tous les cas ce type de paysage plutôt, avec aujourd'hui évidemment les voies sur berge, les voies Georges Pompidou. Donc voilà un petit peu à quoi pouvait ressembler en tous les cas Paris à la fin du 19e siècle, oui c'est ça. Voilà aussi une autre vue de Paris. Donc là on est sur les anciennes fortifs, on est dans le 13e arrondissement. Ce que vous voyez donc, cette grande photo, c'est des jardins ouvriers. Donc les jardins ouvriers sont en quelque sorte vraiment les ancêtres de l'agriculture urbaine telle que, en tous les cas aujourd'hui, on peut l'imaginer dans sa pratique et dans sa forme. Je m'explique, et comme ça va me permettre d'arriver sur la seconde, sur cette slide là. L'agriculture urbaine, donc à la fin du 19e siècle, Il y a une agriculture urbaine marchande, commerciale, celle que je vous ai décrite dans la plaine des Vertus. Et puis, il y a également l'agriculture urbaine qui est liée à la création des jardins ouvriers. Les jardins ouvriers, c'est un abbé, l'abbé Lemire, qui en a eu l'idée, qui est du nord de la France. Et c'était une façon pour lui, donc il travaillait dans une région fortement industrielle, avec l'avenue d'ouvriers, l'emploi donc une industrie extrêmement florissante. Et il a eu envie, en fin de compte, cet abbé, de donner la possibilité aux ouvriers de cultiver leurs parcelles. Et donc, il a créé des jardins ouvriers. Alors, c'est pas uniquement ça, l'histoire de l'abbé Lemire et des jardins ouvriers. Ça permettait aussi, mais ça, c'était, je dirais, l'impensé de ces jardins, ça permettait aussi d'éviter que les ouvriers, le dimanche, aillent dépenser leur paie dans les bistrots. Donc du coup, ils étaient occupés à faire leur potager et ça plaisait beaucoup plus à l'abbé qui cultive leurs légumes plutôt qu'ils aillent boire des coups le dimanche dans les bistrots. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Et donc ces jardins ouvriers se sont transformés après la Deuxième Guerre mondiale en jardins familiaux. Il y a eu tout un tas d'étapes avant d'en arriver là, mais les jardins familiaux sont nés donc après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ce mouvement de l'agriculture urbaine, comme je vous le disais, avec l'effet de l'industrialisation qui avait déjà sérieusement entamé son expansion, s'est progressivement réduite pour, en fin de compte, à la fin des années 60, fin des années 70, grosso modo, totalement disparaître. Je parle essentiellement de Paris et de l'Île-de-France, mais aussi des autres métropoles et des grandes métropoles régionales, pour disparaître complètement de nos villes. Il restait plus que des poches, plus que des confettis résiduels, sous l'effet donc encore une fois de cette industrialisation, de ce développement également de l'urbanisme. Il fallait bien aussi loger les gens qui progressivement rejoignaient ces métropoles. Et l'agriculture urbaine, puis je vais passer rapidement la parole à Simon sur cette dernière slide. L'agriculture urbaine est revenue d'une façon assez inattendue en fin de compte, mais de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. Alors le New York des années 70, donc on est au début des années 70, c'est pas du tout le New York de Donald Trump, ce que vous connaissez aujourd'hui, non, c'est un New York qui est frappé aussi par une forme de désindustrialisation. Il y a eu un choc économique important au début des années 70 dans cette ville, et du coup vous avez des friches industrielles à profusion. Et il y a une jeune artiste qui s'appelle Liz Christie, que vous voyez à l'image, c'est une artiste plasticienne qui va avoir l'idée de récupérer en fin de compte ces friches et d'en faire des espaces, je dirais des formes d'agora où on y cultive, évidemment, puisque c'est son idée première, légumes, fruits et autres plantes, mais surtout on y recrée du lien social. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est grosso modo la matrice de l'agriculture urbaine, cet aspect lien social, en tous les cas de l'agriculture urbaine telle qu'elle organise son retour à travers donc ces opérations de récupération de friches. Et donc, progressivement, elle va lancer un mouvement qui va prendre la forme de la guérilla gardening. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mouvement, la guérilla gardening. Donc, on va se spécialiser à la fois dans la récupération de friches, mais également dans, je dirais, d'autres actions potagères. Elle n'a de guérilla que le nom, évidemment. On est vraiment dans de la guérilla potagère. Et ça va essaimer tout au long des années 70 sur le continent nord-américain. Et puis, ça va franchir l'Atlantique pour... au début des années 90, enfin à la fin des années 90, mais donc dans le courant des années 90, s'installer en France, et le premier jardin partagé va être créé à Lille, jardin partagé qui est issu directement de tout ce mouvement de la guérilla gardening et des friches outre-Atlantique. Et donc le premier jardin partagé va être créé à Lille, il s'appelle le Jardin des Retrouvailles, il existe toujours par ailleurs, et c'est quelque part le grand frère de tous les jardins partagés qui ont été créés par la suite. Donc là vous voyez, c'est un jardin partagé qui n'existe plus d'ailleurs, qui est dans le 18e arrondissement, c'est pour ça que j'ai mis une date à côté, parce que en agriculture urbaine les choses vont très très vite, comme on va vous le préciser tout à l'heure, des initiatives ou des espaces naissent, disparaissent, voilà, les choses peuvent aller très rapidement. En tous les cas, donc à Paris, les jardins partagés vont prendre leur essor au début des années 2000, et puis le mouvement progressivement va s'amplifier. En 2010, en 2014, il va y avoir une série de tournants, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui vont, en fin de compte, donner naissance à quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus, comme je vous le disais, un effet de mode. On n'est pas non plus sur une histoire récente, on est vraiment dans une histoire au long cours et qui est fait, je crois, pour durer.
Pardon. Et du coup, après... Après ce petit angle du coup au niveau historique, un petit tour d'Europe rapide. Donc c'est un sujet d'habitude qu'on aborde en quelques heures. Là, on va essayer de le faire en 2-3 minutes. Donc ça, c'est le trajet qu'on avait fait. Donc c'est un projet qui nous a mis un an à monter. On est parti pendant 8 mois. Toutes les petites étoiles que vous voyez, c'est les endroits où on a dormi. Donc quasiment 8 mois de sommeil sous tente. Et vous voyez qu'on était beaucoup plus musclé en haut en Allemagne, où les nuits étaient plus étalées qu'en bas en Espagne. On est parti au mois de janvier, donc les conditions étaient aussi climatiques plus défavorables, et donc ça nous a permis ça de rencontrer 150 projets d'agriculture urbaine. On précise bien des projets parce qu'on s'est rendu compte en fait en faisant notre voyage et en tirant les conclusions en revenant qu'on avait oublié une part de l'agriculture urbaine qui est celle qui est spontanée et qui est individuelle parce qu'elle était très difficile pour nous en tant que voyageurs à vélo de la rencontrer. Finalement, quand quelqu'un cultive sur son balcon dans une cour comme c'est le cas dans beaucoup des pays des Balkans, on avait du mal à rencontrer ces gens-là, donc on a bien rencontré surtout des projets. La méthode pour nous, elle a été assez simple quand on a cherché à découvrir l'agriculture urbaine en Europe. C'était de croiser deux choses que vous connaissez assez bien. La première, c'est le vélo, parce qu'elle a un gros intérêt, c'est que c'est un moyen de locomotion déjà qui est peu dépensier, qui en plus de ça a l'avantage de donner faim, et vu qu'on aimait bien manger tous les trois, ça nous a permis de manger autant qu'on le voulait, et ça nous a surtout permis aussi d'aller à un rythme qui soit moyen. En vélo, l'avantage c'est qu'on va quand même plus vite qu'en voiture, donc on se sort des situations désagréables assez rapidement. On pense notamment à tous les abords de ville, où quand vous les sortez, des fois ça dure 15-20 km les zones industrielles ou commercial. Si vous êtes à pied, un marcheur moyen c'est 30 km par jour, bah vous pouvez mettre quasiment deux tiers de votre journée à sortir d'une ville. C'est relativement désagréable. En vélo, bah en une heure et demie normalement c'est fait. L'autre gros avantage du vélo, c'est qu'on a tous les sens qui sont en éveil, et notamment on peut sentir les choses qui se passent, notamment l'odeur des jardins, l'odeur des gens qui cuisinent, donc on peut s'arrêter rapidement et aller à la rencontre des gens. Et l'autre chose qu'on a découvert, c'est qu'en fait, les communautés d'utilisateurs des vélos et les communautés de l'agriculture urbaine sont très liées partout en Europe. Et ça, on ne le savait pas en partant, mais donc on a eu de la chance là-dessus. Et donc finalement, quand on rentrait dans les communautés du vélo via les endroits où on dormait, en général, on se retrouvait lié à l'agriculture urbaine et vice-versa. Et la deuxième chose que vous voyez à gauche, vous connaissez assez bien, c'est un moteur de recherche qui s'appelle Google, qui a la chance d'avoir un Google Trad. Et donc là, en fait, on rentrait agriculture urbaine avec le nom des villes où on arrivait, en anglais, en français et avec la langue du pays. Et en fait, on cherchait toutes les initiatives qui avaient lieu dans cet endroit-là, dans cette ville. En général, on ne comprenait pas grand-chose sur le site web, mais on comprenait toujours une chose, c'était l'onglet contact, qui s'écrit avec un K, avec les langues que vous voulez, mais qui, en tout cas, se comprend toujours assez bien. Donc, on envoyait un mail, et dans toutes les villes où on a été, on a toujours eu des gens qui nous ont répondu, donc en Pologne, en Roumanie, partout où on a été, qui nous ont répondu de manière favorable pour nous faire visiter leur jardin, leur projet d'agriculture urbaine. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'agriculture urbaine, à ce moment-là, c'était déjà un sacré bazar, et c'est ça qui nous a plu. Un sacré bazar parce que vous croisez ces deux choses-là que vous avez devant vous, des fonctions. Donc les fonctions, c'est finalement ce qu'on leur demande, ce qu'elles procurent, l'agriculture urbaine. Donc vous voyez qu'elles sont très très variées, ça va de créer de l'emploi, à créer du lien social, à créer du recyclage, et en fait on peut mettre tout un tas d'items comme ça. Tout un tas d'espaces aussi, et c'est ce qu'on va voir après sur les photos qui est assez beau, c'est que l'agriculture urbaine, elle arrive finalement à se glisser n'importe où. Et quand vous regardez en fait en ville, après nous c'est devenu une obsession et ça ne cesse de nous habiter, mais c'est finalement regarder partout en ville tous les endroits de béton que vous pouvez faire sauter ou cacher derrière du verre, et en fait ils sont assez nombreux. Et surtout ce qui est assez joli dans l'agriculture urbaine, c'est que quasiment tous les acteurs dans leur métier peuvent s'en emparer et en faire un travail de leur quotidien. Donc ça donne la diversité que vous avez devant vous. Alors pour petite information rapide, en haut à gauche, donc vous avez un grand classique qui est le bac jardin partagé, donc Incredible Edible, les incroyables comestibles. Donc ça, on en a vu assez peu en Europe, et à l'époque, en 2014, on s'était posé la question du fait que c'était très médiatisé en France, et finalement en Europe, on le retrouvait pas trop. À côté, vous avez un classique qui est mis en avant par beaucoup de politiques publiques aujourd'hui, qui est le fait de faire des jardins pour les enfants, avec des résultats là qu'on a vu plutôt favorables à chaque fois, et avec ici une politique qui était plutôt intelligente de la part de la ville de Bologne, qui avait cherché à ne pas faire des jardins dans chacune des écoles, mais à se dire plutôt on va faire des jardins centraux dans chaque petit arrondissement, sous-arrondissement, et du coup on va mutualiser à cet endroit-là une animatrice, qui en fait était une personne à la retraite, qui partageait son savoir qu'elle avait acquis en milieu rural, avec tout un tas d'enfants qui venaient utiliser des outils qui étaient regroupés à un endroit, avec des graines regroupées à un endroit. Et ça permet notamment de limiter l'étalement des outils et donc des dépenses. On a vu aussi des jardins, comme vous voyez la troisième photo en partant de la droite, qui étaient surélevés pour des personnes en fauteuil roulant. Aussi des personnes qui le faisaient, vous voyez tout à droite une personne âgée qui jardinait sur le toit et au sol dans un dans une maison de retraite. Des parcs à Berlin, en deuxième ligne, qui s'étaient mis tous à planter des arbres fruitiers. Donc ça nous a posé beaucoup de questions aussi. Finalement, pourquoi on continue de mettre des arbres ornementaux? Quand on regarde tous les arbres qu'on plante, on pourrait planter beaucoup de fruitiers à la place. Au milieu des trams aussi, ensuite, vous voyez aussi une toiture de centre commercial. Donc là, on se rend compte qu'on peut avoir des choses aussi qui sont très, très esthétiques, très léchées, avec des budgets qui sont assez conséquents au mètre carré. Et à côté de ça, vous avez des agricultures urbaines qui finalement viennent chercher les espaces disponibles. Et c'est le cas notamment de ce bord de voie de chemin de fer. Et donc ça, on l'a rencontré beaucoup dans les pays de l'Est, où vous avez tout le long des voies de chemin de fer, en fait, cet espace qui sert à rien, au lieu d'être traité au glyphosate comme on sait bien le faire en France, on y met des jardins partagés, les gens produisent leur alimentation et viennent se nourrir avec cet endroit-là. Ça semblait pas poser finalement beaucoup de conflits avec les usagers que sont la SNCF de là-bas. On a vu aussi autour des jardins d'enfants, on a vu des agricultures qui se faisaient encercler par la ville. Et alors ça, c'est le cas de l'agriculture périurbaine dont on reparlera tout à l'heure. Mais l'agriculture urbaine, soit elle vient s'insérer dans la ville, l'agriculture, soit des fois l'agriculture la rattrape. Et c'est le cas de ce champ de patates que vous voyez, ou des vaches qui sont sur la deuxième ligne, dernière ligne. Et donc là, c'est le cas vraiment de la ville qui vient encercler des exploitations agricoles par le biais de construction, de lotissement, d'entreprises. Et donc des agriculteurs en général qui se retrouvent dans des situations de blocage où ils n'arrivent plus à faire évoluer leur système. Ils voient leur terre partir, ils n'ont pas encore l'expropriation finale qui lui permet d'aller racheter une ferme ailleurs, et donc des systèmes qui sont enclavés. On a vu des systèmes qui sont très, très, on va dire, emblématiques et très trendy, avec cet hôtel en face, la gare d'Amsterdam, dont vous voyez le toit avec les drapeaux européens, qui vendait très, très cher son menu à plus de 110 euros, et notamment avec une petite astérix à chaque fois qu'une feuille de mesclun venait du toit. On a vu des centres aussi d'hébergement pour Rome en Roumanie, qui mettaient en place de l'agriculture urbaine à vocation sociale. Et enfin, pour se terminer sur cette grande série, vous voyez de profils assez différents, on a vu des choses qui aujourd'hui commencent à se développer à Paris, mais où d'autres villes étaient très en avance. C'est le cas du pied d'arbre que vous voyez en bas. La ville d'Hanover, Hanovre en Allemagne, a mis ça en place déjà depuis une quinzaine d'années. Et eux, ils ont été plus loin que simplement délivrer des permis de végétaliser. Ils ont carrément un service municipal qui apporte les planches, la terre, et qui, dans la première année, accompagne en donnant des plans aux citoyens. Donc là, avec une vraie démarche d'accompagnement qui permet aux gens de se prendre en main ce petit pied d'arbre. Parce qu'en fait, on pense tous que c'est facile le jardinier de cultiver, mais il y a tout un tas de freins à lever dont on reparlera aussi par rapport aux problématiques de la formation en jardinage ou en agriculture. Le constat de ces différentes formes d'agriculture urbaine qu'on a vu nous pendant 8 mois de voyage, c'est qu'il y a quand même plusieurs crises en fait qui sont responsables de l'agriculture urbaine aujourd'hui. La première que vous voyez en haut, c'est pas le cas de l'Occident, mais c'est le cas en fait de beaucoup, beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde. C'est le cas notamment de la Syrie, c'est le cas du Yémen aujourd'hui. C'est que finalement, la plupart des agricultures urbaines ressortent notamment dans les temps de guerre. Parce qu'au moment où vous êtes sous siège, en général, vous ne gardez pas des pelouses et des arbustes pour faire joli, vous vous mettez à tout cultiver. Et c'est la photo qui est en haut qui l'illustre assez bien. Ça, on l'a prise dans le musée de la guerre de Sarajevo. Et vous voyez qu'en fait, la totalité même des espaces verts de Sarajevo avaient été mis en culture durant le siège, durant la guerre d'ex-Yougoslavie. Et tous les arbres avaient été rasés parce que servaient de bois de chauffage. Donc en fait, là, ça nous amène aussi à repenser, nous, finalement, quand on a des arbres en ville qui ne servent à rien si ce n'est à faire joli, est-ce qu'on pourrait pas leur trouver des utilisations et même imaginer que demain, ce soit le boulanger du coin de Vautru qui se chauffe avec un four à pain avec le platane de devant. De repenser même vraiment la végétation en ville comme quelque chose d'utile, comme on le fait à la campagne, comme le faisaient les paysans à l'époque. On a vu aussi des crises alimentaires, et ça c'était assez perturbant pour nous de se rendre compte qu'en 2008, il y a eu la crise quand même économique partout en Europe, et donc en 2014, quand nous on passait en vélo, on trouvait à Bilbao, en Espagne, des gens qui cultivaient vraiment pour la nécessité de manger, et qui donc là s'appropriaient du terrain sur les périphéries de la ville sans avoir de titre de propriété, sans avoir de bail, et qui se mettaient à cultiver dessus parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour pouvoir manger. Une crise aussi environnementale, et ça on a trouvé cette conscience plutôt dans les pays du Nord, plutôt plus aisés, en Allemagne, aux Pays-Bas, avec des gens qui se souciaient de leur environnement, et c'est le cas du Prinses Innengarten qu'on a retrouvé à Berlin. Et aussi, assez amusant, une crise de l'immobilier qui laissait de la place, et ça c'était le cas notamment beaucoup en Espagne et un petit peu en Italie. C'est quand vous avez un stop économique, et ben d'un coup il y a tout un tas de bâtiments qui devaient sortir de la terre et donc venir bétonner ces endroits-là, qui ne se construisent pas. Donc c'est le cas ici, là vous le voyez, de ces résidences pour étudiants. Et donc à la place de ces résidences pour étudiants, il y avait tout un grand jardin partagé. Et le grand défi de Madrid au moment où on était passé en 2014, c'était de se dire, on sent que l'économie va redémarrer. Que fera-t-on quand l'économie va redémarrer de ces jardins-là? Est-ce qu'on décide de les garder en totalité? Est-ce qu'on décide à chaque endroit de reconstruire ce qui était prévu, mais de garder un micro jardin partagé là? Ou est-ce qu'on décide que finalement, on doit conserver 30% d'agriculture urbaine dans la ville et donc on en squeeze 1/2? Mais sauf que ça, c'est faire fi notamment de l'importance territoriale des jardins. Parce qu'on se rend bien compte, et on va le voir ensuite, qu'un jardin, il n'a de vie que parce qu'il est situé dans un quartier. Et si vous le déplacez dans le quartier d'à côté, en général, il ne fonctionnera pas de la même manière. Enfin, un des trucs qui nous avait vraiment marqué en revenant de ce voyage, c'était qu'on avait vu 150 projets qui étaient magnifiques, mais on commençait à sentir qu'il fallait faire attention à ce que nous, on avait appelé l'effet dauphin de l'agriculture urbaine. C'était de se dire que finalement, vous avez tous vu des reportages et des magazines sur les dauphins et ça paraît très joli. Et pourtant, quand on voit un dauphin en vrai, on a toujours tendance à se réémerveiller encore une nouvelle fois en faisant fi des conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles pour eux de par la pollution sonore des bateaux, en faisant fi de la pollution plastique, etc. Mais on voit un dauphin, c'est magnifique. Et l'agriculture urbaine, ça commençait à être un peu pareil dans tous les médias. On en parlait comme une sorte de tarte à la crème de solution à tous les problèmes. On devait lui attribuer tous les maux de la société et les solutionner grâce à elle. Et on se rendait compte que déjà, on voyait apparaître, comme vous le voyez en haut à gauche, des rasages clairement de jardins urbains où on ne prévenait pas la population du fait que ça allait être détruit pour urbaniser à la place et reprendre les chantiers qui étaient prévus. Mais on avait été content d'avoir fait occuper l'endroit et de l'avoir surveillé sans que ça coûte cher à la collectivité grâce à un projet d'agriculture urbaine. Et on voyait aussi les premiers cas de dégradation par effet de jalousie. Et là, c'est ce que vous voyez en bas à droite, une serre qui avait été totalement retournée, lacérée, et où en fait, c'est des personnes qui ne voulaient pas de ce jardin de ce projet d'agriculture urbaine dans un jardin public qui avait clairement affiché leur destruction. Donc voilà, attention finalement un peu au fait que l'agriculture urbaine n'est pas le paradis. On va essayer de continuer à vous montrer les avantages et les inconvénients qu'elle comporte.
Alors, comme je vous le disais, nous, à l'Agence régionale pour la biodiversité, je vais vous parler, Simon l'a effleuré un petit peu là tout à l'heure, les différentes fonctions, hein, à travers notamment cette mosaïque de photos qu'il vous a montré, les différentes fonctions de l'agriculture urbaine. Parmi celles-ci, donc, il y a la fonction environnementale, qui est donc l'une des préoccupations de l'agence pour laquelle moi je travaille, pas que, hein, il y a toutes les autres fonctions, mais c'est quand même celle-ci qui est pas mal mise en avant. Et donc, nous, on a travaillé au montage avec cet observatoire sur une problématique qui est le lien entre agriculture urbaine et biodiversité, et plus généralement sur la problématique de la nature en ville et du lien entre cette nature en ville et l'extérieur de la ville. Et pour ça, on a un outil qui permet de cartographier, en fin de compte, les espaces en agriculture urbaine, qui nous a permis, donc en ville évidemment, mais qui nous a permis aussi d'élargir un petit peu notre spectre et de voir un petit peu comment cette agriculture urbaine était reliée aux autres espaces agricoles en dehors donc de la ville. Et évidemment, ça vous a pas échappé dans nos métropoles, hein, que ça soit à Paris, enfin que ça soit en Île-de-France, mais aussi dans la métropole lyonnaise, la métropole lilloise, marseillaise, etc., etc. La ville s'étend de plus en plus. Et sur cette photo, là, bon, moi, j'habite Dijon. Hein, la métropole dijonnaise est pas épargnée non plus. Et vous le voyez, il y a cette extension autour de Dijon, là c'est une extension de zones pavillonnaires, hein, ces zones pavillonnaires qui grignotent de plus en plus les terres agricoles et qui coupent progressivement justement la ville de ces terres agricoles et de ses premières, je dirais, de son interland nourricier, ce qu'on appelle l'interland nourricier en fin de compte, qui est grosso modo sa zone qui permettait, je dirais, d'alimenter la ville. Et donc il y a cette première coupure et puis vous avez ensuite, ouais, pardon, merci Simon. Alors, je vais un peu vite. Hop, vous avez alors donc l'autre coupure qu'on a déjà effleurée tout à l'heure. Là, c'est pleine commune. Hein, donc, on est en Seine-Saint-Denis. C'est la zone des Tartes. C'est vers l'université Paris 13 et puis Paris 8 également. Et donc, on voit bien le peu d'espace de nature qui reste en ville. Alors, au premier plan, au milieu. C'est le dernier maraîcher qui se situait là d'ailleurs, c'était René Carsanté, le dernier maraîcher intra-urbain dense en Île-de-France. Il est parti l'an passé à la retraite, René Carsanté, et ce qui est intéressant, c'est que pour précisément éviter qu'on coupe encore davantage et qu'on fonce encore un peu plus vers le tout béton, la pleine commune, donc la collectivité, a souhaité maintenir ces terrains via un appel à projet. Et aujourd'hui, ces terrains vont perdurer et ont été récupérés par plusieurs porteurs de projets. Il y a notamment la ferme de Saint-Denis qui s'est installée là-bas. C'est une très belle installation si vous avez l'occasion d'y aller. Et donc ces terrains vont persister. Donc tout ça pour vous dire que ce que nous, on a étudié avec cet observatoire de l'agriculture urbaine, c'est que cette coupure qui pouvait y avoir et qui a démarré dans les années 60, hein, sous l'effet, encore une fois, de l'industrialisation, sous l'effet de l'urbanisation, sous l'effet donc de l'extension des métropoles, elle a eu pour effet, justement, à la fois de couper ce lien qu'avaient les urbains avec la nature, mais également, évidemment, de couper l'aspect, je dirais, ressources alimentaires, qui aujourd'hui revient à nouveau sous l'effet justement du retour de l'agriculture urbaine. Et c'est là où c'est extrêmement important, c'est que cette agriculture urbaine est en train de, je dirais, de changer un petit peu, beaucoup même, la vision qu'ont les urbains de l'agriculture urbaine, de l'agriculture en général, et davantage encore de la nature en ville. Il y a un besoin aujourd'hui de reconnexion à la nature et qui est exprimé à travers l'agriculture urbaine. Beaucoup de celles et ceux qui viennent dans ce mouvement sont venus précisément, notamment moi c'est ce que j'ai pu observer dans mes travaux à Paris, sont venus précisément à travers des mouvements totalement lié à l'agriculture urbaine. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, à l'image là de pleine commune, se sont emparées de ce mouvement pour progressivement l'intégrer à leur politique publique et faire de la nature en ville et de l'agriculture urbaine des leviers pour précisément faire revenir à la fois la nature en ville, mais on va le voir un peu plus tard, pour donner à l'agriculture urbaine une autre direction sur laquelle on pourra, je pense, s'attarder, parce que ça sera, c'est vraiment le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est en tous les cas le cœur de notre sujet sur lequel Simon et moi on a aussi souhaité vous alerter ce soir. C'est une agriculture urbaine qui est un peu à la croisée des chemins. Mais bref, je vous donne 2-3 exemples de ce retour de l'agriculture urbaine et de la nature en ville à travers des politiques publiques. Il y a notamment ce que fait Nanterre. Simon parlait tout à l'heure du fait que l'agriculture urbaine ou une forme de nature en ville exploitait la moindre surface de la ville. Là, en l'occurrence, la ville de Nanterre, elle, a décidé, vous le voyez, de désimperméabiliser complètement un morceau de trottoir, de chaussée, pour en faire un espace d'agriculture urbaine. Alors là, en l'occurrence, c'est des petits fruitiers qui vont être plantés. Autre exemple qui est assez connu, hein, évidemment, c'est Montreuil et ses fameux murs à pêche, où là, il y a une préservation d'un patrimoine qui est à la fois culturel, social, historique, etc. Il y a eu une longue bataille, hein, qui a été amenée à Montreuil, parce que l'urbanisation, évidemment, n'a pas épargné ces murs à pêche, et pendant assez longtemps, ils sont restés extrêmement menacés. Aujourd'hui, encore une fois, le mouvement inverse, grâce au fait que des habitants se sont emparés de cette thématique, le mouvement inverse est que les collectivités ont pris, si je puis dire, le train en marche, mais en tous les cas, en ont fait un instrument de politique publique. Là, c'est pour vous montrer, l'Observatoire de l'agriculture urbaine fait actuellement une étude qui s'appelle BISO. C'est une étude qui vise, en fin de compte, à précisément comprendre les différents liens que je viens de vous exprimer là. Et donc, on est sur une vingtaine de sites dans Paris et autour de Paris qui sont des sites en agriculture urbaine, à la fois en pleine terre, mais également sur les toits. Et on va notamment sur des sites tels que celui-ci, qui est assez nouveau, hein, qui sont les docks de Saint-Ouen. Donc on est en bordure de Seine, c'est des jardins familiaux et des jardins partagés qui ont été créés il y a à peu près 2 ans ou 3 ans et qui montrent aussi là la volonté d'une collectivité, en l'occurrence la ville de Saint-Ouen, de faire revenir non seulement la nature en ville, mais aussi de faire revenir la fonction alimentaire de cette nature à travers l'agriculture urbaine. Bon voilà, là je vous ai mis des petites photos d'insectes parce qu'il faut bien que je justifie le fait que j'aide de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc une libellule au premier plan, sur la gauche un rhinocéros. Oui, ça s'appelle comme ça, hein. C'est un insecte, hein, qui n'est pas plus gros que ça, donc c'est un petit rhinocéros. Voilà, donc quelques photos, et puis je laisse la parole à Simon.
Donc l'idée, c'est qu'on parle d'agriculture urbaine, mais on se pose souvent la question de qui finalement l'a fait. Donc on parlait tout à l'heure des jardins partagés, des jardins familiaux, où finalement c'est vous et moi, chacun des citoyens qui peut s'engager là-dedans. Aujourd'hui, ce qui est assez remarquable en France, c'est qu'on a une flopée d'acteurs et d'actrices de l'agriculture urbaine qui sont des entreprises, des startups, des associations, des collectifs qui portent le sujet. Du coup, moi, je vais pas vous parler de Veniverdi pour rien, c'est que j'y ai passé 3 ans, et donc l'idée, c'est de vous parler un peu de la structure, de son aventure, et aussi de pourquoi j'ai passé 3 ans à travailler dedans et qu'est-ce qu'on porte comme message, et finalement quelle est la vie d'un agriculteur urbain dans une association comme celle-là. L'idée, c'est que c'est une association qui a été créée en 2011 par Nadine Laoud, donc une femme qui a maintenant quasiment la cinquantaine, qui est d'origine libanaise, et c'est pas anodin parce qu'elle est originaire du milieu rural, et que du coup c'est essentiellement là-bas qu'elle a appris et qu'elle porte depuis son amour pour le verre. On était donc 3 salariés au moment où j'ai été embauché chez Veniverdi en 2015, et donc suite à une légère croissance, on était 10 salariés, parce que j'ai quitté l'association au 31 janvier pour me dédier à mon activité agricole rurale, 10 salariés et 4 services civiques. Vous allez voir à quoi sert tout ce beau monde en termes de gestion d'espace et d'activité. L'idée, c'est que chez nous, on est vraiment dans une logique où on cherche à apprendre à ce que tout le monde cultive. Et donc, le leitmotiv de Veniverdi, c'est faisons pousser des jardins, toujours avec cette idée un peu de le faire partout où on peut, et avec tout le monde, donc avec vraiment cette idée d'agriculture surtout sociale, participative. Aujourd'hui, c'est 6 fermes urbaines qui sont réalisées, Veniverdi. Donc quand je dis une ferme urbaine, c'est un endroit où en fait il y a quelqu'un qui travaille, un des salariés qui travaille de l'association à plein temps sur la semaine ou à plein temps sur une ou deux journées de la semaine. Et donc vraiment avec cette notion de ferme, au sens où c'est un espace que l'on aménage, que l'on fait vivre avec une personne référente et qui est ouverte à tous et à toutes, et qui du coup reçoit au moment de ces ouvertures des bénévoles, des enfants, des adultes, en team building ou non, on en reparlera après des différents publics qui fréquentent nos fermes. Et pour vous donner une idée un peu de l'extension, aujourd'hui il y en a 6 qui sont réalisés et 5 qui sont en attente, notamment dans le cadre des pariculteurs 1, 2 et 3, qui sont un appel à projet de la mairie de Paris, où on nous a mis à disposition du foncier après candidature. Le projet, un des derniers projets sur lequel est l'association, c'est du développement de formation, en se disant que finalement tous les métiers peuvent être touchés par cette envie d'aller vers le vert. Donc on a remporté un appel à projet de la mairie de Paris qui s'appelle Paris Fabrique, qui est un appel à projet sur les métiers en tension, donc sur les métiers de l'informatique, sur les métiers de l'artisanat et aussi sur les métiers de l'agriculture. Et on cherche aussi à former des gardiens, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jardins partagés, on en reparlera après, qu'on implante en pied d'immeuble, qui peuvent avoir des soucis, soit parce qu'on a on manque de personnes pour le faire vivre au quotidien, et donc là on se rend compte que le gardien étant là au quotidien, ça peut être un levier, soit parce que les gardiens des fois étaient frileux au projet et nous mettaient des bâtons dans les roues, et donc on s'est dit autant les associer, voire même faire en sorte que ce soit eux qui portent le projet. Et quand vous êtes un gardien qui doit sortir les poubelles d'un immeuble, que vous devez gérer les espaces verts, que vous devez gérer avec les habitants les problèmes de déchets par les fenêtres, que vous devez aussi gérer les problèmes d'incendie, que vous avez à supporter les remarques des habitants dès que les espaces verts sont pas gérés de la même manière que d'habitude, en fait vous comprenez assez bien l'intérêt qu'il y a de se faire accompagner sur les démarches d'agriculture urbaine. Parce que finalement, si on a plus de déchets qui vont au compost, on sort moins souvent les poubelles. Si on change les pratiques des espaces verts, on a moins souvent des problèmes de salissure, on espère en tout cas des espaces verts. Et si jamais en plus on arrive à associer les gens et qu'il y a une occupation, ce qu'on appelle positive de l'espace, on suppose qu'il y a une diminution de la criminalité ou en tout cas des dégradations qui va avoir lieu. Donc tout l'enjeu, c'est d'accompagner les gardiens sur des résidences sociales. On le fait avec Toi et Joie, qui est le bailleur social de La Poste, au changement de gestion de leurs espaces verts. Et enfin, des formations tout publiques à destination de n'importe qui sur le jardinage, la biologie végétale et la compréhension du monde de l'agriculture urbaine en général. L'association a commencé dans les cours d'école, et donc là vous le voyez ici à travers des petits sacs, et a essaimé surtout dans le 19 et 20e, puis s'est mis en pied d'immeuble parce que finalement c'est un endroit où il y a beaucoup de place et où il y a beaucoup de monde qui peut être intéressé. C'est une idée aussi de faire participer des gens qui sont souvent mis de côté dans notre société, et de se dire que l'agriculture urbaine, le jardinage peut être une façon de raccrocher assez bien les gens. Là-dessus, il y a un témoignage qui nous avait beaucoup marqué pendant le voyage et que je trouve assez motivant dans tous ces projets-là. C'est de se dire que finalement, quand vous prenez l'ascenseur avec votre voisin, en général, vous vous racontez pas grand-chose. Parce que si vous avez tenté de parler du temps, qui est souvent un truc qui nous relie tous, c'est rapidement assez ennuyeux. Ah, il fait beau aujourd'hui, oui, point barre. Ah, il fait moche aujourd'hui, oui, t'as ton parapluie, point barre. Alors que si vous commencez à jardiner ensemble, l'avantage, c'est qu'en parlant de l'alimentation, en parlant du jardinage, et si vous croisez votre voisin et qui vous a jardiné la veille et qui a emporté des tomates cerises, assez naturellement, il va vous dire avec qui il les a mangés. Et vous allez pouvoir rentrer en fait dans son intimité et vice versa. Et en fait, les gens ont tendance à se livrer à travers leur alimentation et à travers le fait de cultiver. Et donc, c'est quand même un lien qui, en plus, change au fil des saisons. Et en plus de ça, est quand même assez intrinsèque à nous, contrairement au parapluie qu'on a à la main. Et donc, c'est une bonne façon quand même de lier du contact dans des cités. La première ferme urbaine qu'a mis en place Veniverdi, c'est celle que vous voyez là, c'est le toit du collège Henri Matisse. Donc là, c'est un pari assez fou à l'époque d'une principale de collège qui a accepté d'enfreindre un peu la loi et de pas écouter le rectorat ni la mairie de Paris. Et Nadine pour installer un des premiers en tout cas potagers sur les toits dans Paris. C'était avant même qu'il y ait les appels à projets de la mairie de Paris. Et donc là, et c'était clairement un peu finalement un truc précurseur et de désobéissance civile, de se dire finalement on y croit, donc on le fait, et les pouvoirs publics nous rattraperont par la suite. L'idée pour ça passe, elle avait été assez simple. C'est la photo que vous avez vue tout à l'heure en ouverture. C'était de mettre des petits sacs en disant à tout le monde, vous voyez, vu que c'est des petits sacs, s'il y a un problème, on pourra les enlever facilement. Alors, en vrai, ça aurait été aussi compliqué de les enlever que si c'était là du compost, mais au moins, ça a permis de rassurer tout le monde. Le deuxième gros projet de Veniverdi, ça a été le collège Fernandez France, que j'ai géré pendant 3 ans, où là, on a aménagé 4 500 m² d'espace vert. Donc là, vous le voyez, avec tout un tas d'enfants et d'adultes, pour les convertir en ferme urbaine. L'idée, c'est que c'est des espaces verts qui étaient délaissés dans un des collèges qui est le plus mal famé, entre guillemets, de Paris, avec une population qui est extrêmement précaire aux abords, et avec du coup un collège qui était un peu un collège poubelle, au sens où on y mettait dedans tous les agents dont on ne voulait plus dans les autres collèges, où on y mettait les professeurs dont on ne voulait plus dans les autres collèges, et faire en sorte que c'était un peu un lieu de sanction pour tout le monde. Et donc un endroit qu'on avait complètement délaissé d'un point de vue général. Et donc l'idée, c'était notamment de revaloriser les espaces verts pour réattirer du monde dans ce collège-là. Déjà, les enfants du quartier qui évitaient la carte scolaire des milieux les plus favorisés. Et aussi, rassurer les professeurs et redonner goût un peu à l'environnement de travail. Et donc ce qu'on a mis en place avec Veniverdi, c'est une stratégie où on a recolonisé les espaces verts par de l'agriculture, et surtout on a essayé d'y faire rentrer tout un tas de gens, d'ouvrir cet endroit sur l'extérieur. Donc là vous voyez à gauche, on y a fait rentrer une diversité de pommes de terre, mais ça n'a pas changé beaucoup la face des gens qui rentraient dedans. Mais on a essayé d'y rajouter surtout des populations un peu plus favorisées entre guillemets, et donc on accueille régulièrement des team building, c'est des journées de cohésion d'entreprise. Et donc pour caricaturer, c'est une vingtaine ou une trentaine de salariés de la défense qui viennent passer leur journée à jardiner dans l'enceinte du collège. Ça a plusieurs avantages pour nous. Le premier, c'est que ça permet déjà d'avoir un coup de main pour gérer les espaces verts. Ça nous permet de toucher une population qu'on ne toucherait pas d'habitude. Ça nous permet en plus d'avoir une ressource financière, parce que c'est des entreprises qui payent assez bien en général pour passer une journée à jardiner. Et ça nous permet aussi de trouver des gens qui vont accepter éventuellement de prendre les élèves du collège en stage par la suite. Et donc d'ouvrir aussi nos élèves à des champs de métiers différents de ceux dont ils ont l'habitude. Donc un cercle assez vertueux. Et là, vous voyez une récolte de céréales la moins productive de France faite au sécateur à la main. Et donc à droite, vous avez aussi des bouquets de fleurs. C'est une de nos idées aussi, c'est de se dire que finalement, on a des fois des espaces pollués en ville. Vous avez beaucoup de gens qui se sont mis à consommer bio parce que c'était bon pour leur santé. Moi, j'aime bien leur rappeler que c'est au-delà de ça très bon pour l'environnement, surtout bon pour les gens qui le font. Et que du coup, il faut arrêter de le voir que pour sa santé. Et notamment, un des intérêts, c'est que la fleur, vous la mangez pas. Et donc quand vous consommez des fleurs bio et local et de saison, vous vous rendez bien compte que c'est pas que pour vous, que c'est bien pour l'ensemble de l'environnement autour de vous. Donc la fleur est une assez bonne entrée pour sensibiliser les gens, sachant qu'aujourd'hui la plupart des fleurs que vous achetez chez Monceau Fleurs, pour pas les citer, proviennent du Kenya, sont en général faites dans des conditions de quasi-esclavage là-bas, avec les restes de bidons de pesticides dont on ne voulait plus en Europe il y a 10 ans. Ça donne envie d'acheter des bouquets à Noël ou à la Saint-Valentin. Et sinon, si elles sont cultivées en France, c'est à peu près dans les mêmes conditions. En général, ça passe par Amsterdam parce que c'est là-bas la place centrale des fleurs, et ça revient en France en avion. Donc il y a quand même sur le marché de la fleur aujourd'hui une énorme hérésie, et pensez-y à deux fois avant d'offrir un bouquet demain. Le collège Fernandez France, donc on l'a ouvert à tout le monde, comme je vous le disais. Donc là, vous voyez des enfants, des entreprises qui venaient jardiner, et on a aussi deux poules et quelques lapins. On a aussi aménagé le toit d'Aboukir. Donc là, c'est sur le siège d'Enedis dans le deuxième arrondissement, donc une entreprise privée sur lequel Émilie gère le jardin et descend deux fois par semaine la production et la commercialise dans le hall d'immeuble aux salariés. Le toit de l'école Tanger, où là, c'est une de nos dernières réalisations. On a réalisé ça il y a 2 ans, donc vous voyez le avant-après. L'idée, là, elle est assez simple. C'est que sur l'ensemble de la semaine, vous avez quasiment la totalité des classes de l'école primaire qui passent à un moment sur le jardin dans la semaine. Et donc, un des meilleurs, je pense, remarques qu'on ait eues sur ce projet-là, c'est la directrice d'école qui nous a dit que finalement, un potager de Veniverdi, une ferme urbaine de Veniverdi dans l'école, c'était comme une classe de découverte permanente. Et ça, c'est vraiment pour nous un gros point de gagner. C'est qu'on arrive à sensibiliser tout un tas d'enfants qui n'auraient pas été sensibles d'habitude au jardinage et à la pratique de juste mettre les mains dans la terre. Et enfin, le dernier gros projet qui est en cours en ce moment, il y en a un nouveau, Germaine Tillon, qui commence à être aménagé. Mais un des derniers gros sur lequel moi j'ai travaillé, et si vous avez plus de questions, il y a Nicolas, le responsable, qui est dans la salle, c'est la ferme école de Flora Tristan. Donc l'idée là, c'est d'aménager 2 000 m² de toit qui était en fait une ancienne cour de récré qui servait plus depuis 4-5 ans dans le 20e arrondissement. Et donc d'enlever progressivement toutes les dalles et de les remplacer par différentes techniques d'agriculture en pseudo pleine terre, donc c'est du compost, mais aussi vous voyez avec des châssis, avec tout un tas de techniques qui vont nous permettre de cultiver toute l'année, et avec de l'hydroponie, différentes façons de cultiver, pas parce qu'on veut en faire la promotion, mais plus parce qu'on veut interroger les gens sur la manière dont sont produits aujourd'hui la plupart de notre alimentation. Parce que quand on parle d'hydroponie, souvent on pense que c'est un truc nouveau en ville. Mais en fait, l'hydroponie, c'est quelque chose qui produit aujourd'hui 80% des tomates que vous consommez en supermarché. Il faut l'avoir en tête. Et donc cette ferme-école, c'est le début aussi d'un lieu de formation pour l'extérieur, pour nos équipes aussi en interne. Les questions qu'on se pose, comme la plupart des structures aujourd'hui d'agriculture urbaine, c'est de trouver un équilibre. Alors l'équilibre, il est économique notamment, entre le taux de subvention, le taux de ressources propres. Vous avez des injonctions d'un côté à être de plus en plus sur des ressources propres, ce qui était notre cas, parce que c'est la diminution des subventions au niveau des collectivités nous entraîne dans ce modèle-là. À côté de ça, quand vous avez trop de ressources propres, on vous dit que vous n'êtes plus d'intérêt général et que du coup, vous pouvez pas être une association d'intérêt général et donc toucher la défiscalisation. En fait, vous avez des injonctions sociétales qui sont assez différentes et qui vont pas forcément dans le même sens. Aussi de choisir entre de la production et de l'animation, ou sinon d'assumer même de garder les deux. Deux salariés, les gens sur les sites internes, et on a des gens sur les sites externes qui vont faire toutes les animations dont je vous parlais tout à l'heure, de trouver l'équilibre de quel pourcentage et quel ratio vont faire ces activités. Est-ce que les gens font les deux pour leur bien-être personnel et aussi pour l'efficacité de l'association? Mais aussi, tout un tas de questions qui sont plutôt de l'ordre de l'agronomie et même de la cohérence avec la ville, de se dire bah, finalement aujourd'hui quand on crée un site d'agriculture urbaine, on est obligé de faire venir du compost de la périphérie. Et c'est d'imaginer que demain on puisse créer nos premiers sites d'agriculture urbaine avec du compost produit 100% en ville, avec toutes les déchets de la ville, que ce soit vos déchets verts, mais aussi peut-être vos déjections si on va un peu plus loin. Et là, notamment, il y a tout un champ de recherche sur l'urine qui est conséquent. Enfin, c'est aussi de continuer à développer des projets sociaux et novateurs, comme on en parlait tout à l'heure sur les espaces verts des immeubles et notamment avec les gardiens. C'est surtout de considérer qu'en fait le boom de l'agriculture urbaine en termes médiatiques a eu lieu à Paris, et je pense que l'endroit où ça va se passer maintenant, c'est vraiment l'approche couronne. On joue dans la cour la plus difficile quand on joue à Paris, parce que s'installer sur un toit, ça coûte en moyenne 50 à 100 fois plus cher que s'installer en pleine terre. Donc si vous faites le ratio avec les mêmes sous aujourd'hui, on pourrait installer beaucoup plus de sites en périurbain et en pied d'immeuble. Et après, si vous commencez même à réfléchir d'un point de vue logique économique, on est nombreux à commencer à s'interroger sur le fait que vous avez des start-up de l'agriculture urbaine qui réussissent à capter 2 millions, alors qu'avec ces 2 millions, vous sauveriez quasiment 300 agriculteurs en milieu rural qui produisent en fait quasiment 1000 fois plus. Donc il y a aussi toute cette logique, nous, au niveau sociétal, de comment on met l'argent qui nous pose question. Et c'est notamment un des enjeux de l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qu'on a créée il y a maintenant 2 ans. Qui est une association qui a pour but, vu que c'est une association de mettre en commun, française parce qu'on n'est que entre nous, et surtout de mettre en commun des gens qui font de l'agriculture urbaine, donc ça on l'a défini tout à l'heure, mais surtout qui en font leur métier. Et c'est pas qu'on voulait être excluant, mais c'est qu'à un moment on a dû choisir entre nous un facteur, un dénominateur commun. Et comme vous l'avez vu, l'agriculture urbaine elle est partout, elle fait toutes les formes d'agriculture, en hydroponie, en aquaponie, elle produit des champignons, elle produit des aromatiques, elle produit de l'élevage aussi. Et donc il a fallu qu'on trouve un moyen de se rejoindre, et le moyen de se rejoindre, c'est quand il y a quelqu'un qui cherche à être salarié dans une structure, parce qu'on considère que le salariat amène tout un tas de contraintes économiques qui font qu'on peut tous se comprendre entre nous dans la FOP. Et donc les 4 grandes activités des structures aujourd'hui adhérentes de la FOP, on est 80 structures adhérentes réparties partout en France, c'est celles que vous voyez là. Vous avez des producteurs dont les compétences sont surtout techniques et au niveau de la commercialisation. Vous avez des animateurs, et c'est entre Veniverdis qui se mettrait finalement un peu à l'interstice des 3 là, des animateurs qui vont faire beaucoup de pédagogie, d'animation. Vous avez des concepteurs dont le métier, c'est vraiment de concevoir des projets d'agriculture urbaine et pas forcément de les exploiter derrière. Donc ces concepteurs, ils vont les laisser après à des producteurs ou à des animateurs. Et vous avez ce qu'on appelle les recycleurs. Et là, c'est tout le job notamment des alchimistes, qui est une structure que je vous invite à regarder sur Internet, qui fait un très très beau travail de recyclage des biodéchets en ville pour produire du compost in situ en ville. Et donc ces recycleurs, leur métier, ça va être de produire la ressource pour demain, pour l'ensemble des agriculteurs que vous avez à côté. Et enfin, le gros défi qui se pose pour nous, en tout cas dans Paris et autour, c'est que si on veut des agriculteurs urbains qui arrivent à gérer tous ces projets, vous avez compris qu'ils sont assez complets et complexes, il nous faut des gens qui soient qualifiés. Et c'est notamment l'objet de la CIL, spécialisation d'initiative locale agriculture urbaine et périurbaine de l'école du Breuil, une formation qui est en cours en ce moment pour sa 3e année, donc on en est à la 3e promotion, et qui du coup forme des personnes surtout en reconversion, avec une parité, même cette année plus de femmes que d'hommes, ce qui est rare dans le milieu agricole, une reconversion vers des métiers qui sont très variés et issus de métiers très variés aussi. On a des profils de tous âges et de tous horizons professionnels. On forme entre de la théorie et la pratique, avec un aller-retour entre des stages et du présentiel sur l'école du Breuil. Et ce qui est assez intéressant et amusant, c'est que l'école du Breuil, c'est une des plus vieilles écoles de paysage de France. Elle a plus de 150 ans. Historiquement, elle formait les jardiniers de la mairie de Paris. Et là où vous avez encore aujourd'hui des gens qui sont formés au bêchage et où dans le concours de la la mairie de Paris, pour être un bon jardinier, il faut savoir retourner un bloc de terre de telle manière. Vous avez à côté de ça, dans l'école, des gens qui pratiquent la permaculture, qui ne veulent plus toucher au sol. Et en fait, dans cette école se passe un fourmillement comme ça d'idées et de rencontres de gens qui ont des façons de faire le jardinage qui sont très très diverses, et ce qui amène à une sorte d'émulsion qui est plutôt fertile. Et je vais laisser Antoine continuer de poser un peu les grands débats de l'agriculture.
Merci. Alors, comme vous l'avez vu, à travers ce que vient d'exposer Simon, la matrice sociale de l'agriculture urbaine, c'est notamment ce qui est entre autres à l'origine de Veni Verdi, et c'est pas un secret, enfin entre Simon et moi en tous les cas, c'est vrai que c'est sans doute la fonction qui nous intéresse le plus dans l'agriculture urbaine, pour tout ce que vient de raconter Simon. Et c'est en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure quand j'ai fait le bref rappel historique, c'est ce qui fonde quand même grosso modo l'agriculture urbaine, à travers donc l'histoire des jardins ouvriers, puis des jardins familiaux, et c'est ce qui a surtout fondé son retour dans les années 70 du côté de New York. Et là je vous ai mis à l'image Grande Synthe, donc la ville de Grande Synthe, hein, dans le nord de la France, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est une ville qui aujourd'hui est en pleine transition, et c'est pas rien de le dire, hein, qui a connu une flambée industrielle et plusieurs décennies de gloire entre guillemets industrielle, et puis qui s'est progressivement paupérisé, et qui aujourd'hui, sous l'impulsion de son maire Damien Carême, qui a entamé depuis 2-3 ans maintenant un parcours de transition écologique extrêmement impressionnant, où l'agriculture urbaine joue un rôle particulier parce que précisément il y a ce lien social extrêmement important qui est mis en avant en termes de politique publique par le maire de Grande-Synthe, particulier également parce que l'idée de Damien Carême, c'est aussi de donner à l'agriculture urbaine une vocation nourricière au sens de l'autosubsistance. Donc il s'agit pas, on n'est pas dans le côté la ville va devenir entièrement autonome sur le plan alimentaire, mais c'est par contre de donner un plus en termes alimentaires aux habitants qui n'ont pas les moyens forcément d'aller sur un marché, ou même qui n'ont pas les moyens d'aller acheter leur alimentation dans un supermarché, une alimentation qui est souvent pas très saine et industrielle évidemment. Donc on est bien là sur une idée de l'agriculture urbaine d'accompagnement de la transition écologique, et je dirais même sur une idée d'agriculture urbaine qui est un pilier de cette transition écologique. Et nous, c'est ce qui effectivement nous intéresse. Et aujourd'hui, en fin de compte, à travers tout ce qu'on a pu vous dire, et je vous parlais tout à l'heure d'une agriculture urbaine qui était à la croisée des chemins, on se demande si cette fonction sociale ne va pas être mise à mal, ou en tous les cas va se retrouver peut-être, et c'est un débat qu'on va pouvoir peut-être avoir avec vous justement, va se retrouver peut-être mise à mal par ce développement exponentiel de l'agriculture urbaine qui n'est pas prêt de s'arrêter, hein, on le voit bien, et puis l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle prouve justement que ce mouvement est en train de se structurer, mais dans quel sens il va se structurer, avec quels acteurs, et surtout quel rôle on va assigner à l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est un rôle social, est-ce qu'on va poursuivre dans ce paradigme, ou au contraire, est-ce qu'on va vouloir lui donner une autre fonction? Alors, on a beaucoup parlé quand les municipalités, les collectivités, les politiques, pour faire court, se sont intéressés à l'agriculture urbaine, donc c'était en 2014 à peu près, vous avez les premières collectivités, les premiers candidats, on était à l'époque en période d'élection municipale, on est souvent en période électorale en France, là c'était les municipales 2014, et vous avez un certain nombre de candidats, notamment franciliens, qui ont mis dans leur programme des pans entiers sur l'agriculture urbaine. Donc c'est vraiment une indication qui faisait que ce mouvement était en train de s'enraciner, hein. Pour pouvoir développer l'agriculture urbaine, ces élus, et notamment Simon l'a évoqué tout à l'heure, ont eu l'idée, qui ne se discute pas sur le plan, je dirais, de la dynamique que ça a créé, ont eu l'idée de créer des appels à projets. Et donc le plus célèbre d'entre eux, hein, c'est bien évidemment les pariculteurs. Les pariculteurs, dont je crois c'est la troisième édition là en 2019. Donc les pariculteurs ont eu un effet assez impressionnant en termes d'appel d'air pour les projets en agriculture urbaine. Et en même temps, cet appel d'air a commencé, je dirais, à favoriser un certain type d'agriculture urbaine. Pourquoi ? Parce que, et là aussi Simon l'a évoqué, cultiver sur un toit, ça coûte extrêmement cher. Je crois que tu parlais de 2 millions d'euros. Donc, c'est ça, hein ? C'est les plus gros. Bon, mais alors les plus gros, justement, ben, on va... Je vais passer la zapette. Donc voilà, voilà un projet qui vient de d'éclore, si je puis dire. C'est Cultivate. On est du côté de, excusez mon accent anglais très très moche, mais on est donc du côté de La Chapelle, donc dans le 18e arrondissement. On est sur un toit précisément, hein, 7000 m² de toiture converti en potager. En tous les cas, vous voyez la petite photo du bas en maraîchage. C'est assez impressionnant. C'est des coûts phénoménaux, hein. C'est pas du tout le petit bricolage sur un toit avec trois fois rien. Non, là on est vraiment sur de l'agriculture urbaine productive, à vocation évidemment commerciale. Cultivate, par exemple, pour distribuer ses produits, est associé à une à de la grande distribution, pour ne pas les citer, Franprix en l'occurrence. Ce réseau de distribution va permettre à Cultivate d'écouler ses produits. Si je vous parle de ça, c'est parce que cette structuration du mouvement de l'agriculture urbaine, dont les appels à projets type pariculteurs ont permis véritablement, ont été accélérateurs, ont aussi eu pour, et c'est un point de vue parfaitement subjectif de ma part, hein, mais vous êtes là pour contredire totalement cette subjectivité, en fin de compte, fait émerger des acteurs qui petit à petit s'éloignent, je dirais, du paradigme tel qu'on a pu vous le raconter là depuis tout à l'heure, ou en tous les cas, tel que... Nous, en tous les cas, je ne sais pas si je trahis ou pas ta pensée, en fait, je parle à ta place, Simon, mais bon, c'est pas grave. Tu pourras me reprendre le micro. Mais en tous les cas, sur le versant de l'agriculture urbaine, qui peut nous intéresser. Ou alors, je vais reprendre en fin de compte le jeu et qui peut m'intéresser. Voilà, ça sera mieux. Quoi qu'il en soit, on voit bien se dessiner aujourd'hui deux grands ensembles de l'agriculture urbaine, à la fois donc ce que je pourrais presque appeler des opérateurs de l'agriculture urbaine, dont la vocation est effectivement marchande, commerciale, et puis à côté de ça, tout de même, la persistance, et je pense que ça va quand même persister assez longtemps, d'associations, de collectifs, type Veni Verdi, qui eux travaillent davantage sur un angle social, culturel, environnemental, etc. Environnemental, parce que bon, même si là on est effectivement sur de la pleine terre, et donc, enfin de la pleine terre, on est sur du substrat qui a été ramené sur un toit, n'empêche qu'on est quand même à l'air libre, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce que vous avez là. Donc c'est hyper connu, hein, ça, enfin je pense que certains d'entre vous en tous les cas connaissent Agricool, hein, start-up, Simon parlait tout à l'heure donc de start-up qui lèvent des sommes phénoménales. Alors tu disais 2 millions d'euros, ou je sais plus où, mais je crois qu'eux ils ont levé 25 millions d'euros Agricool il y a un an ou deux, donc on est là vraiment sur quelque chose d'industriel, hein, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus dans une nouvelle dimension, je dirais, en tous les cas de l'agriculture urbaine. Et on voit bien donc aujourd'hui se dessiner, comme je vous le disais, ces deux mondes. Alors ils se parlent, hein, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle peut-être accueille Agricool, je ne sais pas si Agricool est adhérent ou pas de la FAUP, pas encore, donc ça ne saurait tarder peut-être. C'est important d'ailleurs, la FAUP, parce que ça permet justement quand même cette continuité du dialogue entre les différents acteurs, mais il n'empêche qu'on est en droit aujourd'hui quand même, enfin on peut se demander, on peut poser la question de savoir où va l'agriculture urbaine et quel rôle, encore une fois, on souhaite lui assigner. Et c'est pas tout à fait non plus par hasard que je pose cette question-là, parce que en fait, je vous le disais tout à l'heure, ce qui était intéressant, en tous les cas, dans les pionniers de l'agriculture urbaine ou du renouveau de l'agriculture urbaine, c'était cette démarche de vouloir reconnecter les citadins à la nature, mieux encore, de les reconnecter au sol. On a perdu cette notion du sol dans nos villes, hein. Le sol, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un sol surface, hein, c'est quelque chose sur lequel on marche. En aucun cas, on a l'idée que ça peut être aussi un sol volume et que sous terre, il y a quelque chose. L'agriculture urbaine a aussi permis, quelque part, de se rappeler que le sol était extrêmement important à plus d'un titre pour la vie, et notamment pour la vie en ville. Je ne vous fais pas le topo sur le changement climatique et les îlots de chaleur, vous connaissez ça par cœur. Donc voilà, si on plonge dans une agriculture urbaine high-tech sous une forme de conteneur comme Agricool ou sous d'autres formes dont on peut commencer à avoir progressivement l'émergence, on peut se poser la question de savoir, est-ce que vraiment c'est cette forme-là qu'il faut privilégier, ou est-ce qu'il faut à tout prix Et j'imagine que vous connaissez ce que je... Enfin, vous voyez à peu près là où je veux en venir. Mais où est-ce qu'il vous privilégie à tout prix un équilibre entre ces différentes formes d'agriculture urbaine? Il y a quelque chose qui me... Et après, je repasserai la parole à Simon. Il y a quelque chose, ou à vous d'ailleurs, qui aujourd'hui m'interpelle. Tu parlais de l'approche banlieue qui était sans doute le prochain espace, en tous les cas, celui qui est amené à porter les projets de l'agriculture urbaine avec vigueur. Ce qui m'interpelle, c'est que on est tous avec des smartphones, on est tous avec des ordinateurs, enfin des objets connectés par milliers dans nos poches et dans nos vies. Et donc, pour faire fonctionner ces objets connectés, aujourd'hui, on est obligé d'en passer par des data centers. Ou en français, des fermes de données. Ces fermes de données, elles ne tiennent pas dans un mètre carré. Vous voyez ce que c'est qu'un data center, hein, une ferme de données, c'est quelque chose de considérable qui prend de la place au sol. Et moi, ce que j'ai pu observer, hein, notamment du côté de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a énormément de data centers qui sont en train d'être construits. Pourquoi ? Parce que là-bas, vous avez énormément de friches industrielles. Et ça m'interpelle parce que d'un autre côté, effectivement, ces espaces industriels, ils pourraient avoir vocation à accueillir de l'agriculture urbaine et donc des fermes, pour le coup, des fermes maraîchères ou des fermes qui ont vocation à produire de l'agriculture urbaine. Et à la place, effectivement, il y a aussi la tentation d'y implanter ces fermes de données. Et ces fermes de données, elles alimentent aussi, et j'en termine là, hein, c'est un raisonnement un peu alambiqué, mais elles alimentent aussi forcément l'agriculture urbaine high-tech telle qu'on la voit là. Moi, je me demande très sincèrement si aujourd'hui, on n'est pas en train de s'engager dans une voie un petit peu identique à celle de l'agriculture des années 60. L'agriculture des années 60, hein, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on s'engage parce que nécessité oblige. On s'engage donc sur une voie d'industrialisation de l'agriculture pour nourrir une population qui en a besoin après la Seconde Guerre mondiale. Donc industrialisation, la chimie, etc. Là aussi, je vous fais pas le topo. Et donc, c'est une autre agriculture qui apparaît sous nos yeux. Et quelque part, de mon point de vue, il y a une forme de mutation aujourd'hui de l'agriculture urbaine, avec un engagement fort effectivement vers des nouvelles technologies pour un certain nombre d'acteurs qui, je trouve, progressivement nous éloignent de l'idée originelle de l'agriculture urbaine et qui m'interroge énormément sur son futur.
Et du coup, juste par rapport à la grossité qui elle avait été déplacée et par rapport aux réflexions qu'a engagé Antoine sur toutes les nouvelles formes d'agriculture urbaine un peu high-tech, ce qui est entre guillemets rassurant pour ceux qui auraient peur qu'elle prenne trop de place, cette agriculture urbaine high-tech, c'est que les trois seules structures quasiment aujourd'hui qui ont coulé en agriculture urbaine depuis 2 ans étaient toutes issues de ces milieux de l'high-tech. C'est assez simple à expliquer, c'est que c'est des structures qui sont très très fortement capitalisées. Et pourtant, les aléas climatiques en agriculture urbaine high-tech aujourd'hui sont les mêmes qu'en agriculture urbaine classique en pleine terre. Sauf que quand vous avez un support à 100 000 euros, contrairement à un support à 10 000, bah, l'année où vous produisez rien, vous comprenez bien qu'il vaut mieux avoir un support à 10 000. Et donc là, on se rend compte que ces structures d'agriculture urbaine high-tech, elles nécessitent vraiment une surcompétence en termes de gestion des risques qui est très très forte et que pour l'instant, on n'a pas du tout en agriculture urbaine et donc on ne risque pas non plus de se faire envahir trop vite. Et juste pour terminer là-dessus, sur une, elle passe. Sur une image du coup d'un des derniers films qui en parlait de cette agriculture en hydroponie, où c'était quand même avec son caca, donc il y a une partie un peu de recyclage, mais voilà, c'est quand même des champs exploratoires de comment on peut cultiver autrement, qui sont toujours un peu le rêve de l'humain, je crois. Voilà, donc on va prendre vos questions maintenant ou vos remarques.
Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle.
Si vous pouvez vous présenter juste avant de poser la question, qu'on sache un peu pourquoi ça vous anime.
Bonsoir, je suis architecte. Ma question qui est à l'ordre du jour, je crois, c'est Garches-lès-Gonesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, ça correspond un peu, puisque le projet de Auchan, qui est, je ne sais plus ce que c'est un truc ludique. Il prévoit, je crois que le projet lauréat, il recouvre le bâti de culture, justement. Mais c'est justement, ce qui fait sa justification.
Vous avez vu qu'on était pro-agriculture urbaine, donc on est vraiment pour le projet, parce qu'il y a une ferme urbaine dedans, et on trouve ça génial, du coup. Non, Non, c'est une grosse, une vaste blague. J'ai du mal à concevoir qu'il y ait des gens qui osent mettre une ferme urbaine d'un hectare quand on artificialise 300 hectares. Là, c'est plus l'arbre qui cache la forêt, c'est juste vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. Et donc, je l'avais dit à ceux qui avaient commencé à s'engager dans la conception de cette ferme urbaine il y a 4 ans, parce qu'on les connaît, que pour moi, c'est le jeu de la bétonisation clairement des terres. Et je fais partie de ceux qui se battront pour que le projet n'ait pas lieu.
Voilà, parce que c'est passé ce
truc-là. Ouais, aujourd'hui, on peut pas. Enfin, sachant que c'est un des malheurs aussi qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que aujourd'hui, à chaque fois qu'on bétonise un hectare de plus en France, si jamais tous ces hectares-là, on les prenait sur le Larzac, on pourrait dire que c'est pas si grave parce que c'est parmi les pires terres agricoles de France. Le problème, c'est que toutes les villes se sont mis où ? Et tous nos ancêtres étaient malins. Ils se sont mis partout sur les zones les plus fertiles de France. Ils se sont mis près des rivières où il y avait de l'eau et où il y avait de la terre qui était cultivée. Donc à chaque fois qu'on a grandi Paris, à chaque fois qu'on a grandi Orléans, Tours, toutes ces villes-là, on perd les meilleures terres de France. Donc il y a quand même un côté où agricolement, on ne se tire pas une balle dans le pied, mais 3 balles dans le pied. Et donc on sait là, que ces 300 hectares-là, c'est parmi les meilleurs, ouais, et qu'on ne devrait pas pouvoir se permettre de les bétonner.
Juste pour compléter, votre question est extrêmement intéressante, hein, parce qu'effectivement, on voit bien là... tel que vient de le dire également Simon, il y a cette histoire de ferme urbaine, effectivement, qui était implantée sur le toit du futur centre commercial. Il a du plomb dans l'aile, hein, quand même, le centre commercial. Ouais. Il y a eu plusieurs recours qui ont, heureusement d'ailleurs, abouti. On en est encore loin de la fin de l'histoire. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, dans l'esprit de ses promoteurs, c'était qu'au fond, c'était pas très important de bétonner ces hectares-là, puisqu'on allait bâtir une ferme urbaine qui allait, en plus, selon eux, hein, il faut... Allez voir, hein, franchement, la petite vidéo de promotion du groupe Immochamp, donc Auchan, hein, il faut aller la voir, c'est formidable, c'est un monde fantastique où effectivement on cultive davantage qu'avec des terres agricoles, ce qui est quand même assez incroyable, mais c'est pas innocent tout ça quand même, toute cette histoire-là, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'agriculture urbaine qui monte sur les toits, qui est high-tech, on peut aussi se dire que quelque part, on n'a plus besoin des terres, on n'a plus besoin, je vous parlais du sol tout à l'heure, et notamment du sol volume, on n'a plus besoin de ce sol, puisqu'on peut s'en affranchir. Vu qu'on va sur le toit, vu qu'on est avec des systèmes high-tech extrêmement performants. Donc il y a là un vrai débat, et qui n'est pas juste un débat comme ça de spécialistes, c'est aussi un débat quelque part philosophique, et ça me semble extrêmement important, évidemment, de s'engager dans le combat contre Immochamp. D'ailleurs, en passant, là, il y a une grosse mobilisation les 18 et 19 mai, donc c'est un week-end, si vous n'avez rien à faire ce week-end-là, je vous encourage à y aller, parce qu'il faut continuer à se mobiliser là-bas, et encore une fois, c'est révélateur, quelque part, aussi, je dirais, peut-être de la face cachée de l'agriculture.
Voilà. Je me permets parce que je dois partir, donc j'en rajoute une petite couche légère. Là aussi, je pense que, par exemple, cette agriculture urbaine, une de ses conséquences, c'est aussi la valorisation du foncier. Voir ça au niveau urbain, soit sur place, soit aussi dans le périmètre. Donc on a aussi toute une autre conception de trucs. Et l'autre point, puis je me sauve.
Juste sur la valorisation, je rebondis dessus. Ouais. Il y a deux avantages et inconvénients à la valorisation. D'un côté, effectivement, vous avez tous les phénomènes qui peuvent être d'exclusion sociale, ou en mettant un jardin partagé en pied d'immeuble dans des quartiers populaires, ça peut conduire à une augmentation des loyers et donc à une exclusion de certaines parties de la population. L'autre avantage quand même par la valorisation par l'agriculture périurbaine, c'est qu'on constate qu'une terre céréalière, l'engagement pour défendre une terre céréalière, il est quasiment égal à zéro. Vous allez avoir du mal demain à ce que plein de gens se lèvent pour aller défendre un mec sur un tracteur qui est en train de faire du blé. Par contre, si jamais sur cette terre-là, vous mettez un maraîcher qui produit des légumes, qui vend en AMAP à des gens à l'intérieur de la ville, et ben en fait, ces terres-là vont être beaucoup plus défendues. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à recréer une petite ceinture et une ceinture maraîchère autour de Paris. C'est qu'on sait que ce sera beaucoup plus facile à délocaliser, beaucoup moins facile à délocaliser que des agricultures céréalières qui n'ont aucune valeur, on va dire, affective pour les urbains.
Alors, dernier truc, est-ce qu'on pourrait envisager sur une échelle politique plus globale, c'est-à-dire de dire il faut que les villes soient autonomes au niveau de son alimentation ?
Non, il ne le faut pas, parce que vous avez un des plus beaux métiers du monde qui se pratique en milieu rural, qui est l'agriculture.
Pas forcément être à Muros, hein, je veux dire.
Mais même en périphérie, en fait.
Comme le début des maraîchages.
Même en périphérie, aujourd'hui, ça serait conduire, je pense, aussi à une volonté de considérer que la ville est suffisante. Les gens sont suffisants en ville, ça c'est un fait, mais la ville n'est pas forcément suffisante. Et aujourd'hui, on a un souci qui est le fait qu'il y a encore trop de ruraux qui pensent à l'urbain. Et je pense que la stratégie qu'on doit mettre en place à l'échelle mondiale, si on veut arrêter la plupart des problèmes, c'est de repeupler les campagnes très rapidement. Parce que déjà, on le voit déjà en Afrique et en Asie, le premier seuil pour l'immigration et donc pour les grandes mobilités en général à l'échelle mondiale, c'est vraiment la ville. C'est le bidonville, c'est le fait qu'on enlève les gens de la campagne, ils arrivent en ville, après ils ne savent plus quoi faire en ville parce qu'il y a du chômage partout en ville en fait. Et après les gens bougent et sont déracinés. Et donc il faut se dépêcher de retrouver en fait du travail partout en milieu rural. Et notamment, un des premiers trucs, et là-dessus vous pouvez soutenir la Confédération Paysanne en ce moment, qui fait une campagne sur le fait d'arrêter d'exporter du lait européen en Afrique. Parce qu'à chaque litre de lait qu'on exporte en Afrique, et c'est le même cas avec les tomates depuis quasiment 20 ans, en fait, quand on envoie des tomates à 1 euro au Sénégal, il faut se dire que tous les producteurs qui arrivent à en produire, eux, à 2 euros là-bas, eh ben, en fait, ils arrêtent de bosser parce que c'est pas rentable pour eux. Et donc, ils arrivent dans les bidonvilles, et une fois dans les bidonvilles, ils viennent faire grossir ces bidonvilles. Voilà. Et donc, il y a tout ce mouvement, plutôt, moi, de se dire retournons à la campagne. Et surtout, faisons en sorte que la campagne, elle, redevienne autosuffisante. Les villes le seront aussi. Mais arrêtons d'être de plus en plus nombreux en ville. Ça nous coûte trop cher, même énergétiquement. Aujourd'hui, en ville, on consomme beaucoup plus d'énergie qu'on est d'habitants en pourcentage.
Donc, vous l'aurez compris, l'agriculture urbaine, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est l'agriculture rurale. Non, mais trêve de plaisanterie. Ce qui est important aussi, c'est que, effectivement, l'autonomie des villes, c'est une vaste fumisterie. Et si quelques-uns, on peut y penser, je pense que, heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, pour plein de raisons qui viennent d'être exposées là par Simon. Mais ce qui me semble intéressant dans l'agriculture urbaine, c'est quelque part, c'est un peu le maillon manquant qui avait disparu en tous les cas entre l'agriculture rurale, l'agriculture périurbaine et donc la ville. Et elle permet, dans un certain sens, de recréer ce que j'appellerais ce mix agricole qui, lui, va effectivement nourrir à la fois la ville, mais aussi la campagne et les banlieues qui vont avec. Donc on raisonne plus d'ailleurs à un échelon régional, une forme de biorégion. Et c'est ça qui rend peut-être l'agriculture urbaine aussi intéressant en termes de projet politique et qui me semble intéressant de porter beaucoup plus qu'effectivement une hypothèse d'autonomie alimentaire avec une ville qui serait à elle seule productrice, consommatrice, enfin une ville démurge en fait, hein. Et je crois pas que ça soit effectivement la solution. Les métropoles aimeraient beaucoup devenir comme ça. La métropolisation de notre territoire est extrêmement inquiétante et je rejoins évidemment complètement Simon sur le fait qu'il faut absolument repeupler les campagnes. Simon s'y est mis, donc je suis sûr qu'en sortant vous allez vous y mettre aussi.
Bon, moi je pense, je voulais faire un petit constat. Dans les années 80, il y a eu des études savantes qui ont été menées sur les villes africaines par des africanistes sur le secteur informel, qui ont prédit même la disparition de ce type d'activité. On parlait de la ruralisation de la ville. On les chassait carrément du centre urbain. Quand il y a des grandes conférences internationales, on les renvoyait à la périphérie. On trouvait que c'était un pis aller. Le secteur informel était vu comme un secteur qui parasitait le secteur moderne, quoi. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui en France, en Europe, ce qu'on ne voulait pas voir dans ces villes commence pas à émerger. Tant mieux. Mais c'est le constat. Hein. Mais maintenant, là, je vais poser le problème sur un terrain conceptuel. Et dans ces années-là, on ne parlait pas d'agriculture urbaine. On parlait de maraîchage urbain. Est-ce qu'il faut continuer à dire que ce qui se passe ici, c'est du maraîchage urbain qu'on voyait dans ces villes dans ces années-là, où c'est en quoi c'est différent? Est-ce qu'on peut parler encore de maraîchage urbain ou carrément d'agriculture urbaine? Voilà, c'est tout. Merci.
Merci déjà beaucoup pour votre remarque, parce que c'est un des gros travaux que mène notamment Christine Aubry, qui est probablement une des personnes les plus éminentes de l'agriculture urbaine en France, une chercheuse d'AgroParisTech qui a, pour des raisons personnelles, des liens avec Madagascar, et elle cherche à empêcher notamment cette disparition du secteur informel de l'agriculture urbaine, notamment à Tana. Et ça disparaîtra pas. Ça persistera, on est bien d'accord. Mais il y a quand même beaucoup de politiques publiques qui vont à cette encontre-là, notamment sur l'élevage. Et en fait, nous, c'est un des gros soucis. Autant faire revenir des légumes à Paris, c'est assez facile. Vous n'avez pas grand monde qui vous hurle dessus. Par contre, on a un gros souci, nous, à faire revenir rien que des poules. En fait, ça effraie tout le monde. Et c'est le gros souci aujourd'hui à Ouagadougou, à Dakar, dans plein de capitales africaines. C'est que les dirigeants cherchent à sortir l'élevage de la ville parce que l'élevage, c'est synonyme de maladie. Et ça, comment ? Non, ils comprennent de rien, mais ils ont très peur au niveau sanitaire parce que les villes continuent de grossir et avec elles, ces risques-là, en fait, de maladies. Et donc, il faut réussir à les garder parce que, notamment, un animal, c'est un très bon recycleur. On parlait tout à l'heure des recycleurs et il n'y a rien que mieux. Il faudrait qu'on ait des unités de 250 poules un peu partout, à Montreuil, à Nanterre, dans les parcs du 20e, un peu où il y a de la place pour recycler nos déchets et puis produire nos œufs en ville. Mais par rapport à cette notion de maraîchage et agriculture, le problème, si on appelait ça que du maraîchage urbain, c'est qu'on se couperait justement de cette notion d'élevage qui aujourd'hui tend à être aussi une des beautés de l'agriculture urbaine. Vous avez Berger Urbain, la Ferme du Bonheur à Nanterre et différents autres agriculteurs urbains qui sont des éleveurs urbains et qui, eux, réinterrogent la ville aussi grâce à l'animal. Et c'est pour ça qu'on reste dans la notion d'agriculture urbaine et pas de maraîchage urbain, c'est qu'on a besoin de tout, en fait, même des champignons qui ne rentrent pas dans le maraîchage. Et donc, je pense que la notion d'agriculture urbaine est plus jolie que celle que de maraîchage, quoi.
Oui, mais non, ce que je voulais dire, c'est que les politiques sont totalement décalées par rapport à la population. 90% de la population en Afrique vit de l'agriculture, quoi qu'on dise. Et que, de toutes les façons, c'est à eux de s'adapter. Et moi, la première fois où j'ai vécu ce phénomène, c'est il y a bientôt 25-30 ans, c'est à Amsterdam. Vous n'en parlez pas dans votre travail, mais eux, déjà, ils faisaient de l'agriculture urbaine. Ils sont toujours restés. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Amsterdam, quand vous y allez...
Si, on a vu des maraîchers comme ça qui ne s'étaient pas fait
déloger. Qui étaient toujours à Amsterdam-Ville, il y a 30 ans.
Oui, mais c'est le cas de René Kersanté, dont on parlait tout à l'heure aussi. Antoine à Saint-Denis, enfin, vous en avez certains qui ont réussi à lutter avec des systèmes qui permettaient d'assurer aussi un cash flow important, des maraîchers qui avaient trouvé des bonnes sources de recettes, avec par contre un inconvénient souvent au niveau aussi de leur pratique qui était quand même assez désastreuse. La plupart des maraîchers qui arrivent à rester sur des terrains qui valent cher, c'est qu'en général ils crachent beaucoup de légumes et c'est pas sans engrais ni sans produits. Donc ça réinterroge aussi comment on fait pour garder les gens proches de la ville avec moins de gestion, en générant moins d'argent. Et là c'est le cas notamment de l'agriculture bio. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez des maraîchers en agriculture bio qui arrivent à se réimplanter sur des petits fonciers autour de ville. C'est que c'est des activités qui sont mieux rémunérées aussi que de l'agriculture conventionnelle.
Mais votre question, elle est intéressante, hein, parce que, enfin, forcément d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, quand vous posez la question de savoir est-ce qu'on doit appeler ça, ce mouvement agriculture urbaine ou maraîchage urbain, personnellement, moi, je me suis à un moment donné posé la question de savoir si on avait eu raison de nommer ce mouvement, de lui coller cette étiquette justement d'agriculture urbaine, parce que quelque part, ça. On est rentré justement dans un processus d'industrialisation avec des opérateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, et ce peut-être au détriment d'une forme d'agriculture, enfin d'une forme de potager urbain, d'une forme de maraîchage urbain qui était très bien présenté, notamment par les jardins familiaux, qui sont donc des jardins qui participent à l'auto-alimentation de celles et ceux qui entretiennent ces parcelles. Et je me dis que voilà, aujourd'hui, ce mouvement, il serait intéressant peut-être de le repenser, et surtout de repenser à cette histoire de reconnexion à la nature, à son alimentation dont on parle depuis tout à l'heure. Et est-ce que les jardins familiaux sont pas un des leviers à privilégier plutôt que d'amener des gros opérateurs façon cultivette, mais je ne vais pas me fâcher avec eux, je les connais, donc voilà, je suis... Il me semble important quand même aujourd'hui d'analyser un petit peu ce qui est en train de se passer. Et effectivement, le débat sémantique là, que vous introduisez, il est assez intéressant parce que l'agriculture, l'agriculture urbaine en tous les cas, elle a, le fait qu'on désormais on se lance dans quelque chose auquel on assigne une productivité importante, me semble un petit peu faire qu'on déséquilibre aussi ce qui avait été fait depuis plusieurs dizaines d'années à travers ces jardins familiaux. Tu parlais de ceinture maraîchère, il faut savoir les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, les maraîchers de la Plaine des Vertus, donc qui ont contribué à faire grossir justement cette ceinture maraîchère, ils y ont contribué, mais aussi avec l'apport des jardins familiaux. Ces jardins familiaux ont véritablement été à l'origine aussi de cette ceinture maraîchère qui n'a pas vraiment existé sur l'île de France. En fait, c'était plutôt des archipels, hein, il n'y avait pas vraiment une vraie ceinture. Mais moi, je me pose la question, il y a un vrai débat sémantique quelque part, mais qui va au-delà de la simple sémantique sur le fait précisément du projet qu'on porte à travers ce mouvement.
Oui, j'ai une petite question. J'ai passé un peu de temps à Singapour. Et Singapour, c'est une ville hyper dense, je ne sais pas combien il y a de millions d'habitants, et j'ai été il y a 25 ans, et je suis retourné il n'y a pas très très longtemps, et j'étais surpris parce qu'ils ont pris des initiatives, donc c'est un peu ma question, ils ont contraint l'urbanisme, les promoteurs immobiliers, à systématiquement, quand vous avez 100 mètres carrés de construction, vous avez 100 mètres carrés de végétal, vertical, récupération des eaux de pluie, enfin toute une sorte de contraintes qui font quand même, quand vous promenez maintenant à Singapour, le long du périph, vous avez des toucans, vous parlez de biodiversité, des lémuriens. Alors certes, ce n'est pas l'idéal, mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Est-ce que le collectif, est-ce que les villes ne doivent pas imposer quand même de nouvelles règles qui permettraient à tous de pouvoir y trouver leur bonheur, sans pas au détriment du monde rural, mais qu'en ville, on puisse évangéliser un peu différemment ces nouvelles pratiques.
Alors du coup, ça a quand même été fait, hein, globalement en France, en tout cas c'est en démarrage. Vous avez des lois qui ont obligé à ce que normalement toute nouvelle construction de plus d'une certaine taille infiltre ses eaux de pluie à la parcelle. Donc c'est quand même déjà un nouveau gros défi, c'est d'essayer de dire l'eau qui tombe sur mon toit, je la renvoie plus dans les égouts, j'essaie de la gérer, donc je l'infiltre, je mets en place des structures végétales qui vont les infiltrer. Vous avez dans le dernier PLU de Paris qui favorise l'agriculture urbaine tout un tas de ratios aussi qui favorisent les espaces végétalisés, en disant que pour une nouvelle surface urbanisée, il faut conserver 4,78 fois l'équivalent de 37 fois c'est un imbitable comme truc, mais en tout cas ça fonctionne assez bien pour les promoteurs, et que si vous mettez par contre deux locales à vélo, ça compense le fait que vous ayez enlevé 10 mètres carrés, qui compense le fait que vous ayez mis un panneau solaire. Enfin, c'est un truc qui est génial en termes d'outils, mais qui est incompréhensible pour le citoyen lambda. Ce qui permet aussi comme ça que quand les gens le font ou le font pas, on puisse pas trop venir vérifier de l'extérieur, parce que vu qu'on comprend pas, c'est pratique. Donc là, ça pose aussi question sur la gouvernance, c'est qu'il y a un moment où quand on fait des lois qui sont pas compréhensibles par la moitié des citoyens, on peut pas avoir trop de rétro-contrôle, et c'est plutôt pratique pour les grands groupes. Mais on a quand même cette tendance-là qui est amenée. Après, sur les murs végétalisés, par exemple, moi, je serais assez critique parce que, pour moi, le meilleur des murs végétalisés qui existe aujourd'hui, il coûte 1,50€, vous pouvez le trouver chez Ganzer, ça s'appelle un pied de lierre. Quand on s'amuse à faire des murs végétalisés, comme celui notamment du Quai Branly, qui a été refait 3 ou 4 fois, je crois, depuis, qui nous coûte à peu près 100 000€ en maintenance à l'année, avec de l'eau, de la fertilisation, tout un tas de trucs comme ça, qui, en plus de ça, est refait régulièrement parce que la plupart des tuyaux se bouchent et donc crèvent. Je pense que la vigne vierge, le lierre ou des plantes comme ça, on peut y aller. Donc c'est aussi se poser la question de pourquoi toujours aller chercher des moyens surdimensionnés, là où la nature fait très très simple. Et là-dessus, c'est un des gros soucis aujourd'hui, c'est que toutes ces voies-là nous amènent à raisonner en tant qu'ingénieur, en disant on va faire de l'ingénierie écologique, mais en fait la meilleure quasiment des ingénieries écologiques, c'est juste de regarder de la nature et de la copier, mais sans chercher à la reproduire. Et ça, c'est tout le lot aussi de l'humain qui veut continuer de maîtriser et de se dire en permanence, je refais et c'est moi qui fais mieux forcément que ce qui est fait naturellement. Et donc ça me rejoint un peu la réflexion que disait Antoine là sur la sémantique. C'est tout bête, mais en fait agriculture, c'est aguerre et cultiver, donc c'est la personne qui cultive son champ, l'agriculteur. Et vous avez aussi à côté de ça des gens qui disent je ne veux pas être agriculteur, je veux être paysan. Paysan, par définition, c'est quelqu'un qui fait paysage. Et c'était le rôle en fait des gens qui étaient avant dans la campagne, c'était de faire paysage, c'est-à-dire de gérer les haies, tout en gérant la ressource pour le bois de chauffage, pour le manche de l'artisan d'à côté, pour le bois, pour le boulanger d'à côté, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, je préférais presque être paysan urbain qu'agriculteur urbain, parce qu'on recycle des matières qu'on composte, on fait paysage parce qu'on améliore l'endroit, on cherche aussi à produire des choses qui vont permettre peut-être demain à un artisan de monter une structure de teinturerie de lin à côté. Enfin, et donc, on cherche plutôt à être dans cette démarche-là. Et donc oui, il faut améliorer le paysage, mais attention à quel coût, entre guillemets. Et là-dessus, je vous conseille un TEDx qui est assez marrant de Baptiste Grard, qu'il a fait dernièrement à Namur, sur les toitures végétalisées, où il raconte notamment à quel point les toitures végétalisées, aujourd'hui, ça a beau être très beau, une toiture végétalisée en sédum, son impact environnemental, quand on sait que la puzzolane, elle a rasé la moitié d'une montagne en massif central, que l'argile qu'il a fallu pour faire les billes d'argile, elles viennent d'Italie en général, et qu'il a fallu de l'énergie pour expanser la bille d'argile, que le compost, il vient de tel endroit, et qu'en général, il y a une bonne partie, c'est de la sphaigne qui vient de Pologne, tout ça pour retenir de l'eau et faire du verre sur nos toits, on aurait peut-être mieux fait de laisser la rétention d'eau en Pologne, la puzzolane en Auvergne et juste de faire un toit plat en fait. Est-ce qu'il faut absolument verdir pour verdir et s'afficher positivement quand on enlève autant de fonctions ailleurs pour mal les reproduire en plus en ville ? La question est posée aussi.
Merci. Bonsoir Agnès, moi je travaille dans le milieu agricole et j'avais une question plutôt, enfin un peu moins drôle, mais réglementaire de manière générale. On parle d'agriculteur, mais est-ce que les personnes ont le statut d'agriculteur ? Parce qu'il y a un statut d'agriculteur et les contraintes et restes qui viennent derrière.
Avant de répondre, vous travaillez dans quel milieu agricole ?
Oula, on en parlera plus tard. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Donc oui, contraintes réglementaires et aussi au niveau de ce qui est produit. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Par exemple, on fait pousser des légumes sur des toits. Si on commercialise actuellement des légumes, il y a des analyses phytosanitaires, etc. Il y a des grosses contraintes réglementaires. Comment cet aspect plus réglementaire est ou pas actuellement pris en compte ?
Quel est le pourcentage des agriculteurs en milieu rural qui respectent ces règles phytosanitaires sur les légumes ?
Pour avoir importé des fruits et légumes, la plupart. Je travaille dans l'importation.
À l'étranger, peut-être.
On est obligé. Même en France, il y a des contrôles qui sont réalisés, toutes les certifications type Global Cap.
En France, sur les personnes qui vendent en direct ?
Obligé. Je ne saurais pas dire. C'est plutôt grande culture.
C'est de l'ordre de 10%.
D'accord, merci.
Donc c'est un truc assez marrant, hein, c'est que ça revient à quasiment toutes les conférences et moi ça m'amuse parce qu'en fait la ville est un milieu sale par définition.
Ah c'est
vraiment un point de vue qu'on a tous et qui est, je pense, assez amusant, c'est qu'on la voit comme très polluée. Donc forcément ce qu'on va produire c'est considéré comme souvent pollué. Or aujourd'hui en fait c'est un choix assez cornélien, moi je dis souvent aux gens, soit vous choisissez les légumes bio de chez Veniverdi mais avec un petit peu de dépôt atmosphérique. Soit vous choisissez des légumes classiques de bord d'autoroute, même de milieu rural, qui ont des pesticides en plus. Et donc là, il y a déjà un premier enjeu qui est de se dire, finalement, on sait aujourd'hui que de toute façon, tout ce qu'on consomme, c'est toujours pire que mieux. Il y a toujours un souci, et donc c'est à nous de choisir où on met le curseur, en fait. Et on ne peut pas être parfait. Donc ça, c'est sur le côté plutôt la vision qu'on en a. Après, sur le côté statut, effectivement, le débat est assez costaud, parce qu'on est en dialogue avec la DRIAF là-dessus, la Direction régionale et interdépartementale. Ça, c'est lié au fait qu'on soit en Île-de-France et que ça soit fusionné, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, qui chercherait effectivement à ce que la plupart des agriculteurs urbains, comme on vous en a parlé, Veniverdi et toutes les autres structures, rejoignent ou se positionnent clairement, est-ce que vous êtes agriculteur urbain ou non ? Un agriculteur urbain dans le code rural, enfin un agriculteur dans le code rural, c'est quelqu'un qui maîtrise la partie, en partie ou en totalité un cycle animal ou végétal de production. Donc vous voyez bien qu'on est des agriculteurs, vu qu'on le fait, on cultive une salade de bout en bout, on la vend, donc on est agriculteur à ce titre-là. Il y a plusieurs autres questions qui se posent. La première, c'est qu'aujourd'hui, les associations ont du mal à être reconnues comme agriculteurs en France. Parce que souvent, c'est des statuts qui sont donnés à certains types de structures du milieu agricole ou à titre individuel. La deuxième, c'est qu'en général, un agriculteur, il est aussi défini par le sol sur lequel il est présent. Et notamment sur le fait que dans le plan local d'urbanisme, en général, on est sur une zone agricole. Ça ne concerne pas la plupart des agriculteurs urbains. Le troisième, c'est qu'en général, pour être agriculteur reconnu en France, en tout cas pour pouvoir s'installer avec des subventions et tout ça, il faut avoir ce qu'on appelle la capacité agricole, donc avoir un diplôme agricole. La beauté de l'agriculture urbaine, c'est qu'on est avec beaucoup de gens qui sont en reconversion et qui, en général, n'ont pas cette capacité agricole. Et donc, nous, on est plutôt du genre à dire aussi, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt étendre cette capacité agricole ou en tout cas reconsidérer la validation d'acquis par expérience, etc. Et il y a tout un tas de questions comme ça qui font qu'aujourd'hui, des agriculteurs urbains qui sont vraiment agriculteurs et qui ont notamment reçu des aides à l'installation, il y en a deux en France. Donc on est quand même plutôt encore à la marge, et donc pas considéré comme agriculteur dans la loi. Par contre, ça n'empêche qu'on fait le même travail que certains. Le truc qui est assez amusant, c'est que là, on est en discussion, on était quand j'étais encore à la FOP, avec les JA ou avec la FNSEA aussi, pour travailler ensemble sur la notion notamment de ces agricultures multifonctions. Et là, moi, je pense que l'agriculture urbaine augure un peu quelque chose pour le reste de l'agriculture, et ça s'est vu d'ailleurs avec la dernière augmentation des pourcentages d'activités non agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, jusqu'à il y a deux ans, quand vous faisiez plus de 30% de chiffre d'affaires qui n'était pas agricole dans votre structure, vous deviez créer une autre société. Donc si vous aviez des gîtes, des chambres d'hôtes, ou si vous aviez je ne sais quoi, et que c'était plus de 30%, il fallait une autre société. Aujourd'hui, c'est basculé à 50%. Nous, on est super contents en tant qu'agriculteur urbain, parce que ça veut dire que tout, quand on fait des animations, on peut monter jusqu'à 50%. Pourquoi ça a été fait ? Pas pour nous. Hein. C'est parce qu'il y a des structures de méthanisation notamment qui se mettent en place de plus en plus en France, et qu'un éleveur laitier qui est payé à 300 euros par mois à cause de son lait, demain potentiellement il gagnera 1000 euros grâce à son énergie. Et donc on sait très bien que les chiffres d'affaires vont évoluer. Donc il y a quand même tout un tas de réglementations comme ça où on fait gaffe aussi parce qu'on aurait envie de les bouger pour nous, parce qu'elles nous serviraient, mais on sait qu'aussi elles peuvent desservir les petits agriculteurs parce que tenter les gros agriculteurs industriels. Et c'est notamment le cas de la réglementation sur les biodéchets, où on est très très chaud en tant qu'agriculteur urbain pour qu'on monte les seuils, parce que nous on aimerait bien retraiter plus de biodéchets dans la ville. Sauf qu'on sait que si demain on commence à trop s'engager sur ces voies-là, et ben demain vous allez avoir des énormes plateformes de compostage, de méthanisation qui vont se mettre en périurbain. Et qu'en fait, quand on fait changer la loi pour un petit acteur, le risque c'est que les plus gros s'en emparent. Donc en fait, c'est tout le rôle de la FOP aussi de se poser la question en permanence de on a envie de jouer, mais qu'est-ce que ça va provoquer sur les autres ? Et donc en général, on joue plutôt en le disant pas trop. Comme ça, ça marche et puis ça embête pas trop d'autres gens, quoi.
Est-ce qu'il y a encore une petite question ? Dans ce cas-là, on va s'arrêter là pour ce soir. Encore un grand merci à Simon Ronceret et Antoine Lagneau pour cette rencontre et à vous tous pour votre présence. Donc, comme je vous le disais au début, la conférence sera disponible sur le site de la BPI d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, bonne soirée.
Et merci à Marie pour toute l'organisation.